Oui, bah, du coup, moi, je suis venu en tant qu'auteur de jeux de rôle artisanal. Voilà, donc surtout. Voilà, c'est polyphosphaté. Et donc, voilà, je suis surtout connu, entre guillemets, pour l'univers forestier de Millevaux. Et puis, là, l'idée, c'était de faire un événement off de la RJDRA, Convention des joueurs amateurs. Moi, j'ai l'habitude de venir sur Paris et d'autres villes, en fait, où je fais des tournées. C'est-à-dire que je fais différents lieux, différentes animations. Et donc, ça faisait longtemps que je proposais au menu des tournées la table ronde à domicile. Bah, merci Thomas de m'avoir fait confiance sur ce coup, parce que c'est un premier essai, quoi. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà.
On fait passer le chapeau à la fin.
Bonjour, je suis Zana. J'ai découvert le jeu de rôle grâce à Thomas. L'autre Thomas, pardon. Voilà. Et depuis 6 ans, je suis lectrice et joueuse de jeux de rôle et je trouve le sujet intéressant. Je parle pas assez dedans. Donc, bonjour, je m'appelle Anna.
Bonjour, Anna.
Je suis lectrice et joueuse de jeux de rôle depuis 6 ans et voilà, je trouve le sujet intéressant.
Bonjour, je m'appelle Audrey. Je fais du jeu de rôle depuis très longtemps, je dirais même 30 ans. Que dit comme ça, je suis pas si vieille que ça. J'ai commencé très tôt. Je m'intéresse de très près aux jeux de rôle indépendants. Je suis donc rôliste avant tout. GNiste depuis peu. Je suis notamment connue pour les casseroles que je mets dans mes backgrounds de GN, avec toute la batterie qui va avec. Voilà, dans la vraie vie, je suis linguiste et chercheuse en intelligence artificielle.
Okay. C'est pas mal, effectivement. Donc, moi, c'est Vivien Féasson ou Mange Lune sur les forums. Dans le domaine du jeu de rôle, bah, je suis un auteur, on va dire, puisque. Voilà. J'ai écrit Les Errants d'Oublio, Perdu sous la pluie, et en ce moment j'essaie de financer donc Libreté sur Ulule. Voilà, c'est pour moi le chapeau qu'on fait passer ensuite. C'est important. Et puis que dire d'autre ? Bon, un petit peu de théorie aussi en amateur, voilà. Et puis je participe à des podcasts comme de temps en temps La Cellule, et puis ça m'est arrivé sur les autres Radio Rollist ou Les Voix d'Altéride. Et à part ça, dans la vie de tous les jours, je suis professeur d'anglais, traducteur et thésard en traduction. Et je crois que c'est tout.
Et moi, c'est Eugénie, donc célèbre blogueuse. Moi, je suis joueuse depuis pas si longtemps, mais du coup, je m'intéresse aux jeux de rôle du point de vue du joueur et pas du MJ ou de l'auteur. Et j'alimente un blog qui s'appelle Je ne suis pas MJ, mais... Et j'interviens un petit peu quand on m'invite sur les voies d'Altaride, par exemple. Voilà.
Bonjour, Xavier, Globo pour les intimes sur les forums et sur les voies d'Altaride. Donc je suis un joueur au long cours, je suis tombé dedans quand j'étais petit, moi aussi. Voilà, traditionnellement, sur les voies d'Altaride, je suis celui qui arrive en disant « Je vous préviens, j'ai pas grand-chose à dire ce soir, et puis je fais partie des bavards, j'espère que je
serai fidèle à la tradition. » Ne lui laissez pas le micro, je rappelle, ne lui laissez pas le micro.
Bonsoir, je suis Julien, donc je fais aussi le jeu depuis que j'ai 9-10 ans, donc plein de temps. J'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup été meneur de jeu, puis j'ai un petit peu levé le pied, j'avais plus qu'une ou deux campagnes en cours, et puis je m'y suis remis un peu plus sérieusement quand mes enfants ont commencé à être un peu plus grands, et puis j'ai découvert que j'avais raté 10 ans de théorie rôliste. Donc depuis 2 ans j'essaye de rattraper, La Cellule, les voies d'Altaride, les ateliers d'imaginaire, donc voilà, je suis aussi pas mal, je suis très intéressé par tout ce qui s'est fait en indépendant depuis, et voilà, je trouve qu'il y a plein de choses passionnantes dans lesquelles je cherche encore un petit peu mes repères en testant plein de choses. Et à côté de ça, je suis prof en informatique, je fais des sites web et je suis très investi dans la canne de combat, qui est un sport aussi passionnant que méconnu. Voilà.
Quelle idée. Moi, c'est Valentin, Valentin T sur les forums, extrêmement original. Je fais du jeu de rôle depuis une petite dizaine d'années. J'adore ça. Et ce qui me fait le plus triper, c'est la théorie bien sale. Ouais, j'adore ça. J'en fais dans mon boulot, j'en fais partout. Quoi. Et donc, j'aime bien me prendre la quiche avec des problèmes très compliqués. Voilà, c'est mon kiff.
Et d'ailleurs, Valentin a un nom de quiche, en fait, qu'on peut redéguster.
T'inquiète, il y a du matos.
Bonsoir à tous, mon nom est Thomas Laboré. Moi, dans le civil, j'ai...
Comment ça va ?
Je m'inquiète. Donc j'ai monté une start-up qui réfléchit sur les organisations innovantes et humanistes. Et je fais pas mal d'associatifs à côté. Côté jeu de rôle, j'ai toujours joué au jeu de rôle. J'ai pratiqué à peu près tout ce qui est sorti entre les années 70 et 2008 ou 9, où j'ai un peu lâché. Enfin, tout ce qui est sorti en français et en anglais. J'ai pas joué à un jeu de rôle japonais, brésilien, voilà. J'ai commis une dizaine de jeux qui sont en téléchargement gratuit sur Internet. J'ai cofondé le collectif Imaginer.net où on a fait partie des premiers qui faisaient de la théorie bien sale et puis on a lâché l'affaire il y a 7-8 ans parce qu'on n'avait plus le temps. Et
personne n'arrête la théorie.
Ah non, on a continué, mais on publie plus, tu vois ce que je veux dire. Sauf quand il y a des gens qui viennent nous donner un micro, les fous, les inconscients, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai passé longtemps à la Fédération française de jeux de rôle, agréée jeunesse et éducation populaire. Où j'ai été secrétaire général, j'ai été président deux fois, je suis toujours officiellement président d'honneur, et pareil, j'ai arrêté un moment, j'ai plus le temps. Alors, cette année, j'ai fait un truc dont je suis assez content, parce que un projet que j'avais depuis longtemps s'est enfin concrétisé, qui est d'arriver à vendre à des entreprises, ou à des administrations, ou à des collectivités, en tout cas à des clients professionnels, des parties de jeux de rôle. Et ça marche vachement bien. Donc si on vous dit qu'on peut pas gagner de thunes avec le jeu de rôle, on peut peut-être pas gagner de thunes en vendant des bouquins dans lesquels il y a des systèmes de jeu de rôle, mais nous on arrive à se faire payer 20 000 balles par une boîte que vous connaissez sûrement, qui fait des molécules aromatiques et qui se posait des questions sur sa stratégie donnée, donc ils nous ont payé ça pour qu'on les fasse jouer à une apocalypse de zombies. Si vous ne voyez pas le rapport, on en parlera dans un autre podcast. Mais voilà un truc que j'ai réussi à faire qui réunit mon métier et ma passion. Et voilà, je trouve que c'est bien.
Ok, il reste moi. Donc, Julien Poire, je suis donc l'hôte principal, mais pas le seul des Voix d'Altaride. Au niveau jeu de rôle, donc, je fais pas mal de podcasts. Comme Vivien, j'ai participé à Radio Relige. Sinon, niveau jeu de rôle, j'ai participé pas mal au niveau associatif, notamment dans des assos de GN Vampire, où j'ai beaucoup sévi pendant très longtemps. J'ai participé aussi à des assos de jeux de rôle sur table, notamment à Boulogne, notamment pour dire des endroits qui sont pas très loin de l'endroit où on est, quoi, sur toute la banlieue sud-ouest de Paris. Et puis sinon, je suis en train de préparer des jeux. J'ai écrit une campagne qui va bientôt sortir, qui fait que oui, j'ai gagné un petit peu d'argent avec le jeu de rôle. Assez peu. Et ben voilà, écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. Mon activité principale en jeu de rôle aujourd'hui, c'est la discussion avec les gens pour apprendre d'eux les théories pour pas avoir à chercher moi-même, parce que c'est plus intéressant quand on vous l'explique. Et explorer tous ces domaines-là avec pour objectif, ce qu'on s'est fixé avec Globo un peu quand on a commencé notre podcast, c'est de réintroduire dans le jeu de rôle qu'on dit traditionnel tout ce qu'on apprend en allant aux franges et dans les domaines expérimentaux, notamment au niveau du jeu de rôle indépendant, etc. Et donc de piller un petit peu toutes ces idées-là pour les ramener dans notre pratique quotidienne. Et bon, du coup, maintenant je fais beaucoup de jeux de rôle indépendants.
Donc du coup, avec ta permission, ça me permet d'enchaîner donc sur la table ronde. Donc l'idée, c'est qu'on a cinq personnes qui ont un peu préparé le sujet. Donc Thomas Laboré, notre hôte, toi-même Julien, Valentin et puis Vivien. Donc on va se donner une heure où on va effectivement un peu monopoliser la parole, nous cinq. Alors évidemment, si vous avez une impérieuse envie de réagir, faites-le quand même, mais laissez-nous un petit peu développer notre truc. Et au bout d'une heure, c'est free for all, là il n'y a plus de chef, et chacun pourra s'exprimer sur un sujet qui de toute façon a été pensé comme étant trop vaste pour tenir en une soirée. Hein. Le sujet, c'est toute partie de jeu de rôle qui me trahison. Alors je tiens à vous préciser que c'est un peu le bazar de ma vie, parce que je suis jeune parent, donc je découvre comment ça se gère, et donc voilà, déjà là, je suis arrivé avec un plan qui n'est pas forcément aussi structuré que j'aurais voulu, alors je vous demanderai un petit peu d'indulgence si des fois mes propos sont décousus. mais on va voir que c'est raccord avec le sujet. Le sujet, c'est tout, c'est un bonheur, mais voilà, après, derrière, il faut, faut assurer. Toute partie de jeu de rôle est une est-elle une trahison ? Alors, il y a plein de questions qui se cachent derrière le sujet que je vais vous laisser, auxquelles je vais vous laisser répondre. Et la première question, c'est peut-on jouer les règles à la lettre ? Est-ce qu'en le faisant, on en respecte pour autant l'esprit ? Est-ce qu'une partie de jeu de rôle ne serait pas une inévitable et désirable trahison de la base de jeu de rôle ? Donc du coup, est-ce qu'il y aurait une idée de défendre une souplesse de pensée et une adaptation par rapport aux règles ? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi derrière une idée de défendre les systèmes qui le permettent ou l'encouragent ? Alors trahison, le terme est peut-être un peu fort, un peu clivant, donc je vais vous proposer des synonymes. Par trahir, on peut aussi parler de détourner, de s'approprier, voire de méconnaître, ou encore de compenser. Et l'inverse de la trahison, on pourrait appeler ça la fidélité, rester fidèle à une base de jeu de rôle, rester fidèle à des règles, à l'intention d'un auteur, à l'intention du MJ, d'un scénario. Mais ça peut aussi, on peut aussi parler de respecter, d'épouser, d'accompagner, de suivre ou de catalyser, pour employer un terme barbare. C'est une discussion qui va s'adresser à la fois aux auteurs, aux autrices de jeux de rôle.
Barbare, c'est grec.
Voilà, qui va s'adresser aussi aux MJ, ainsi qu'aux joueurs et aux joueuses. Donc c'est autour du système de Smatter et du Rolling Not Rules. Alors on définira ce terme barbare si vous voulez plus tard. Autour du pouvoir des règles et de l'émergence. Et en gros, la question complète, ce serait toute partie de jeu de rôle est-elle une trahison du livre de base ou de la philosophie du jeu ou de l'auteur, de l'autrice, du scénario, du genre narratif, du contrat social, du MJ. C'est-à-dire qu'en fait, qui est-ce qu'on trahit ? Voilà, là je vais vous laisser déjà un petit peu vider votre stack. Quoi.
Hein ? Allez, Vivien.
Allez, Vivien, tradition.
Alors j'hésite par quel angle commencer, je vais prendre un exemple bêtement de ma propre vie, on va dire, de rôliste et plus particulièrement de meneur de jeu, puisque la première réflexion que ça provoque chez moi, en fait, c'est ma carrière, entre guillemets, de meneur de jeu. C'est-à-dire que j'ai quand même vécu quelque part la première période rôliste. Alors, j'en fais pas depuis 30 ans, mais quand même depuis 15 ou 20 ans à peu près. Effectivement, comme une forme de trahison répétée quelque part des envies que j'avais en portant finalement un jeu devant une table, en l'amenant, souvent avec des joueurs qui n'avaient pas forcément envie de se laisser faire, qui n'avaient pas forcément envie de jouer des gentils héros comme je les imaginais, pour reprendre l'exemple que je cite souvent, finissaient par décapiter le méchant roi classe, jouer au foot avec sa tête et cracher dans le cou. Ça, c'est, on va dire, la première période très succinctement résumée, mais quelque part, on peut, sous un certain angle, se dire, voilà, cette première période a été vécue parfois comme une forme de trahison de ce que je voulais y amener. D'où le fait de se tourner, quelque part, ensuite, vers des jeux à proposition extrêmement resserrée. C'est là où la vague, on va dire, indépendante est arrivée. Et l'idée, quelque part, de fermer un maximum de portes pour les foutre dans un couloir et... abstrait, évidemment, pas un donjon.
Là, je parle du pièce-monstre-trésor.
Ouais, non, justement, voilà. C'est une forme de porte-monstre-trésor, mais c'est un porte-monstre-trésor conceptuel, narratif, c'est ça. Et du coup, s'assurer vraiment qu'ils aillent tout droit, parce que les règles, de toute façon, leur disent vous allez dans ce sens-là, et puis de toute façon, il n'y a pas de règles s'ils veulent faire autre chose, et s'assurer que. Voilà. Et seulement après avoir un petit peu forcé ça pendant un certain temps, commencer finalement maintenant à rouvrir des portes. On en parlait ce matin notamment avec Eugénie, la possibilité peut-être que c'était tout simplement le fait de se tourner vers des jeux indépendants, c'est peut-être finalement du coup sélectionner des joueurs déjà intéressés par ce genre de jeu, du coup une fois qu'on a trouvé ces joueurs-là intéressés par les mêmes choses, peut-être commencer à redécloisonner les choses et du coup à nouveau faire confiance aux gens et du coup éviter la trahison, parce qu'on est trahi généralement par des gens en qui on a confiance, sinon c'est plus pas de la trahison, on s'y attendait.
On n'est jamais trahi que par les siens.
C'est ça. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez rebondir dessus, sinon je peux juste enchaîner rapidement sur... voilà. Ok. La deuxième chose que ça m'évoque, c'est que le manuel de jeu de rôle n'existe pas. Histoire de provoquer un peu. Le manuel de jeu de rôle n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il est forcément transmis par le biais d'une personne qui le lit, qui l'interprète et qui ensuite l'explique. Et ça fait déjà plusieurs biais entre le manuel et la transmission. Et du coup, quelque part, on ne peut pas trahir cette base, on ne peut que trahir finalement la personne qui l'amène. Voilà, c'est ce que je voulais lancer là-dessus. Pas de base de jeu de rôle finalement à trahir, mais des meneurs de jeu ou des guides ou j'en sais rien comment on appelle ça, suivant le type de jeu. Si je vous ai séché...
Toute petite réaction là-dessus. Moi, je sais que quand je dois maîtriser un nouveau jeu de rôle, je me relis les règles et je me fais un mémo de une, deux pages parce que je sais que je serai incapable de manipuler les livres de base pendant la partie. Donc, il faut que je réduise l'information déjà à une ou deux pages. Donc, quand je fais ça, je peux déjà déformer la règle juste pour la faire entrer dans mon mémo. Et je sais que, une fois que j'ai joué à la fin de la partie, je sais très bien, je me dis, ah oui, bah, cette règle-là, j'ai complètement oublié. Cette règle-là, en fait, j'ai rien compris. J'ai pas du tout fait comme j'avais compris en lisant, et ainsi de suite. Donc, je sais déjà d'office que le jeu que j'ai maîtrisé, les règles que j'ai utilisées, que j'ai manipulées, n'avaient en fait plus grand-chose à voir avec les règles telles qu'elles étaient dans le bouquin, quoi.
Ouais, c'était pour rebondir sur ce que tu disais au sujet de il n'y a pas de base de jeu de rôle. Je suis obligé de m'inscrire en faux parce que même moi qui, par exemple, écris des brouillons de jeu, je les joue avec mon jumeau maléfique qui s'appelle Toonie. Et lui-même m'oblige à suivre les propres règles que j'ai écrites alors que j'ai oublié quoi. Il me fait non, regarde, tu peux pas, regarde, c'est marqué ça quoi, dans tes propres règles.
Mais la question que je te pose aussi, c'est quoi le volume de tes règles, tu vois, en deux pages par exemple.
Exactement, c'est quoi, une dizaine de pages max quoi, gros maximum. En général, ça va, tu peux les suivre quoi.
Ouais, mais c'est pas du jeu de rôle ça.
Ah, premier clash de la soirée.
Bite.
Oui. Si tous les clashs sont aussi doux que ça, ça va aller.
Je suis assez d'accord, c'était un peu provoque, mais malgré tout, tu peux te demander aussi, est-ce que toi-même, tu te laisses pas influencer par ton jumeau maléfique, tu vois, quand il dit, t'as écrit telle règle comme ça, et si toi-même, tu la suivais pas, est-ce que...
Alors, je comprends pas très bien. Je suis pas...
C'est-à-dire que si lui te dit, t'as pas suivi telle règle, et qu'il dit la règle, est-ce que c'est pas lui, du coup, qui devient, quelque part, l'interprète des règles et,
En fait, c'est lui,
est-ce
lui que ton
c'est... C'est lui le livre de base.
C'est ça
le propos de Vivien. C'est pas, le jeu de rôle n'est pas une religion du livre où tu lis le Coran, c'est une religion initiatique où quelqu'un te dit ce qu'il y a dans le Coran. Il y a de transmission chorale, ce qui n'est pas choquant dans un jeu qui repose fondamentalement sur l'oralité.
Ah, il voulait juste les claques au début, il intervient.
Tu te présentes.
Voilà, du coup, tu te présentes.
Bon, Bouclier, organisateur des précédentes CJDRA qui ont inspiré les RJDRA auxquelles on va assister demain avec grand plaisir.
Bravo, bravo.
Mais le jumeau maléfique, en l'occurrence, moi.
Fais du bruit pour Bouclier.
Dans cette description, je le vois comme un gardien, je le vois comme un protecteur. On parle de trahison, mais là, justement, il intervient pour éviter que tous les deux, ils trahissent la cohérence de la règle, parce que finalement ce qui l'intéresse c'est l'esprit et la cohérence de l'ensemble, et que manifestement s'il te reprend c'est que tu risques d'aller vers des zones qui vont déstabiliser ton jeu, parce que déséquilibré, parce qu'il a été écrit d'une certaine façon avec une cohérence et un équilibre. Il y avait une prétention j'imagine au début, donc en fait le copain je pense est arrivé pour prévenir de la trahison justement.
Eh ben écoutez, moi je vais rebondir sur deux choses puisqu'on a décidé qu'on rebondissait ce soir. Voilà. Je vais rebondir sur deux choses. La première chose, ça va être à propos du bouquin de jeu et de parler. Moi, ce que j'ai longtemps eu, c'est une crainte de la trahison du bouquin. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai été longtemps incapable de faire jouer à certains jeux si j'avais pas un scénar du commerce, parce que j'avais l'impression que j'étais incapable de sortir quelque chose de valable sans trahir complètement le jeu. Alors, c'est complètement irrationnel. Hein, c'est une espèce de crainte que j'ai fini par dépasser. À l'opposé, je me suis aussi rendu compte rapidement, et c'est complètement paradoxal, que pour un certain nombre d'autres jeux, utiliser un scénar du commerce, c'était totalement impossible pour moi, parce que je ne pouvais pas ne pas le trahir. Que ce soit par simple paresse, préparer pendant des heures un scénar pour le faire jouer, sachant que de toute façon ça va dérailler, que je vais oublier la moitié des choses. Donc, quel travail de mémorisation ? J'avais l'impression de faire des devoirs. Bon, je suis prof aujourd'hui, donc finalement les devoirs... J'aimais bien ça quand même, mais il y a des limites quand même. Bah évidemment, voilà.
Ouais, en fait, tu te venges quoi.
Chut. Ne révèle pas mes secrets.
Tes scénars par tes élèves. Voilà.
Non, pas mes joueurs. Ça, mes scénars, c'est les joueurs. Donc, j'en suis rapidement passé à l'improvisation. L'improvisation qui me permettait d'éviter toute trahison d'une œuvre écrite par un auteur, puisque finalement, il n'y avait pas d'auteur. Ou l'auteur, c'était tout le monde autour de la table.
Donc du coup, on ne se trahissait pas parce qu'on essayait de se faire confiance. On pourra en parler aussi, parce que trahir la table de jeu, c'est quelque chose aussi qui arrive fréquemment. Deuxième point, à propos de l'interaction entre les règles écrites et l'application de ces règles, je suis en train de réfléchir, on en a parlé un petit peu avec différentes personnes ici présentes, je suis en train de réfléchir justement sur les interactions entre les pratiques des joueurs et les règles du jeu elles-mêmes. Et contrairement, quand on parle de trahison, la trahison, elle est connotée négativement. Pour moi, la façon dont on va pratiquer les règles d'un jeu peut être à la fois positive ou négative. On peut utiliser des techniques, et je parle vraiment de pratiques de jeu, quoi. De pratique de description.
On peut parler de transformation aussi.
Oui, on peut parler de transformation. Moi, ce que j'aime bien voir et ce sur quoi je suis en train d'essayer d'écrire, c'est une notion de synergie et une notion d'antagonisme. La façon dont on va pratiquer un jeu peut être pratiquée en synergie, c'est-à-dire que nos pratiques que nous apportons dans la partie, en fait, peuvent entrer en résonance avec les règles du jeu pour créer une expérience qui est encore meilleure. À l'opposé, on peut prendre un jeu complètement à l'envers et importer des pratiques qui vont ruiner le jeu. Dans les deux cas, il y a une trahison de ce qui est écrit parce qu'on apporte des choses en plus.
T'as presque une troisième voie qui est par
exemple
quand tu fais ah tiens on va se faire un vieux donjon de l'œil noir mais en mode on va se moquer du jeu en fait, on va se moquer du fait que le jeu est caricatural,
oui en décalage ouais, bien sûr.
Tu vas jouer à un scénario porte-monstre trésor, tu vas jouer complètement en décalage ou quelque part tu te places en antagonisme mais c'est dans le but de prendre du plaisir.
Alors,
à la partie
t'es pas en antagonisme
dans un jeu parodique en fait.
Pour moi t'es pas en antagonisme parce que tu vas pas diminuer l'effet de la partie, tu vas pas aller à l'encontre de ce que te propose la partie, tu vas choisir un chemin de traverse pour en tirer un plaisir différent de celui qui est prévu, donc c'est encore autre chose. Là on se rapproche presque de l'émergence qu'on peut avoir notamment dans les jeux vidéo etc, dans la pratique du jeu vidéo. Pour donner un exemple de ce dont je parle, c'est l'exemple que je te donnais ce matin Thomas, prenons Vampire, moi c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup pratiqué. Dans Vampire, la proposition de base, c'est de jouer un humain qui est en train de se transformer en vampire ou qui vient d'être transformé en vampire, qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive, qui doit s'accrocher à son humanité. Après, le jeu est allé plus loin. Après, on a pu jouer des vampires très anciens, etc., etc. Mais gardons cette proposition de base. Je joue un mec qui s'est fait transformer par un vampire il n'y a pas très longtemps, qui ne gère pas très bien ce qui lui arrive, qui a une humanité qui est en train de chuter. Enfin bref, c'est la merde pour lui. Si, quand je vais décrire mon personnage, je vais choisir de le décrire dans cette direction-là, en parlant de la façon dont il va être affecté par cette histoire-là, ça va marcher. Le jeu va me renvoyer la même expérience. Les joueurs autour de la table vont le faire sentir. Et c'est ce que je pense être une sorte de synergie par rapport à une pratique qui est la description du personnage. À l'opposé, je décide de décrire mon vampire comme quelqu'un d'hyper classe, comme quelqu'un voilà, qui, comme l'Estal Vampire, la Rockstar, le machin. Le système de jeu de Vampire ne permet pas de faire ce genre de choses au départ. C'est-à-dire que quand vous faites ça une fois sur deux, vous allez vous planter, devenir ridicule, et c'est une des grandes causes de rejet de ce jeu par de nombreux rôlistes. Dans ce cas-là, pour moi, on est en antagoniste, parce que je demande au jeu de faire quelque chose par ma pratique qui ne permet pas. On peut dire que le jeu est mauvais, et que c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le faire. On peut aussi dire, bah peut-être qu'il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu-là, plusieurs méthodes, et que selon la façon dont on importe notre pratique, notre habitude de jeu, dans ce jeu-là, on peut le faire bien marcher ou pas. Quand je joue le pouilleux qui vient de se faire mordre dans la ruelle et qui essaye d'ouvrir une porte pour aller choper un type et qui rate lamentablement son jet, qui tombe dans le ridicule, etc., bah, y a un côté qui résonne pas mal avec la proposition initiale du jeu. Après, y a, comme c'est un jeu assez ancien, c'est un jeu qui est très vaste. Hein, oui, 92. Hein. C'est un jeu qui est très très vaste. D'accord. Il y a aussi des jeux récents qui sont très vastes, hein, mais bon, c'est un jeu très vaste, et par conséquent, moi, c'est l'approche que j'avais quand j'ai commencé à jouer là, qui est validée par le bouquin, mais c'est pas la seule possible. Du coup, des synergies, des antagonismes, moi, je prends un exemple, mais il y en a des tas. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, pourrait être intéressant d'étudier. Voilà.
Bon, bah, du coup, tous les cinq ont parlé, sauf moi. Moi, j'ai complètement décroché de la théorie rôliste depuis en gros le début des années 2010 parce que j'ai eu trop d'activités professionnelles pour suivre le foisonnement d'idées qu'il y a eu à ce moment-là. Donc, il y a des mots que vous employez que je ne suis pas sûr de comprendre parce que c'est des mots qui ont l'air simples mais qui ont peut-être un sens à eux. Et j'ai délibérément pas lu ce que vous aviez dit, écrit, publié les uns et les autres sur ce sujet ou sur un autre. Donc, j'arrive complètement vierge. Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis attaché au sens des mots. Donc, je me suis posé la question, voilà, partie de jeu de rôle, toujours trahison, dit Monsieur Mignot.
Point d'interrogation. Hein.
Point d'interrogation. Et le point d'interrogation est important. Ce n'est pas une affirmation à débattre, c'est une question ouverte. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça m'évoque ? Une trahison, c'est quoi ? C'est quand il y a quelqu'un qui attend de quelqu'un d'autre un certain comportement, soit parce que ce quelqu'un d'autre s'y est engagé, de manière forte par contrat, par une promesse qui n'engage que ceux qui y croient, parce que la situation donne à penser que ce serait une chose logique qu'il pourrait faire, parce que ce serait le sens de son intérêt, parce que dans le référentiel de pensée de l'autre, bah, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Il s'attend à un comportement, que l'autre n'a pas. Donc il le vit comme quelque chose de frustrant et de malveillant. Ça, c'est la définition. Donc en jeu de rôle, quels sont les cas dans lesquels quelqu'un attend qu'un autre fasse un truc et lui en veut parce qu'il ne l'a pas fait ? Là, on peut répondre à la question de M. Munier telle que je la comprends. Je note d'ailleurs, par rapport à cette compréhension qui était la mienne dans vos réponses, une orientation sur les règles qui va appeler de ma part des développements dans une intervention future. Donc je me suis dit, voilà, c'est quoi les engagements qu'on prend en le sachant ou en le sachant pas dans le jeu de rôle ? Il y en a 15 000, je ne vais pas être exhaustif, je vais essayer d'être un brin systématique pour embrasser diverses choses. Le premier, c'est l'univers. On joue dans un univers reconnaissable, Star Wars, Glorantha, Harry Potter, j'en sais rien, le 12e siècle. On joue dans un univers parce qu'il a sa géopolitique, parce qu'il a son exotisme, et que c'est ça qu'on attend de retrouver. Et parfois, on est déçu. Parfois, moi, je me souviens d'avoir joué dans Les Jeunes Royaumes avec un meneur qui était un brillant thésard en histoire médiévale et qui donc nous calait la société du Moyen-Âge dans le Beauvaisis, sur Les Jeunes Royaumes de Moorcock. Pourquoi pas ? Mais quand, quel que soit le pays où tu vas, tout le monde a les mêmes institutions, la même église, de la loi omniprésente, etc., tu dis, c'est super, il est vachement bien ton jeu sur le Beauvaisis au XIIe siècle, mais moi, j'étais venu pour jouer à Stormbringer. Donc, c'est emmerdant parce que c'est pas le bon univers. Il y en a plein d'autres. Il y en a un sur la thématique, qui n'est pas la même chose que l'univers. Si on attend un jeu épique, où de toute façon il y a des prophéties, de toute façon tout ce qu'on fait est vachement important, tous les gens dont on tombe amoureux sont en fait soit des gens qui vont vous trahir, soit votre conjoint, votre frère ou votre sœur caché, etc., etc. C'est pas la même chose que si on est dans un truc street level, grim and gritty, où on ne sait pas ce qu'on va bouffer ce soir, et le moindre point de vie compte, parce que de toute façon, tu as des malus, parce que tu as faim, tu as froid, tu es fatigué, tu as un chagrin d'amour, et tout ça te fait des malus cumulés. Ce n'est pas la même façon de jouer, on ne prend pas les mêmes décisions. Voilà. Autre élément, le ton. Je suis toujours frappé de voir que les gens qui catégorisent les jeux de rôle, le grog, etc., ne prennent jamais en compte le ton du jeu. On a cité Vampire, c'est un jeu d'épouvante. C'est un jeu où il se passe des choses épouvantables, où on joue des créatures surnaturelles d'épouvante, du monde de la nuit, de la mort, de la terreur. Sombre est un jeu d'épouvante, on en a beaucoup parlé.
Il y en a qui voient Vampire comme un jeu gothique.
Attends, je n'en dis combien pas, mais voilà, on peut le rattacher au jeu d'épouvante. Sombre est un jeu d'épouvante, il s'y passe des choses épouvantables. À Sombre, on joue des victimes, vous dirait Johan s'il était là, on est sûr de mourir à la fin, etc. Chill est un jeu d'épouvante, on passe 100 ans à combattre des vampires garou-momies du lac noir. Bon, est-ce que ces jeux ont le même ton ? Non. Chill est un jeu d'aventure, Vampire est un jeu de prise de tête adolescente, Sombre est un jeu d'exploration de ses failles personnelles, c'est des jeux très différents. Le ton est différent. Si on dit « viens, on va jouer à un jeu d'épouvante », peut-être que les gens ne s'attendent pas à la même chose et que l'expérience qu'ils auront de la partie sera différente et sera peut-être décevante. Le système, naturellement. Le système, c'est ce que vous appelez les règles, que moi je refuse d'appeler règles pour des raisons théoriques sur lesquelles je peux revenir. Si on est dans un paradigme où le système a dit mécaniquement que quand tu fais ça et que le dé ou la carte ou le machin il a dit ça, alors il se produit ça, quelles qu'en soient les conséquences, c'est pas le même pacte que si on dit ouais bon, ton idée elle est vachement bien, puis ça ouvre des perspectives narratives vachement intéressantes, ça ouvre des possibilités pour tout le monde, sauf que les dés ils ont fait double zéro, ces fils de pute. Donc on va dire que ouais, mais en fait tu te pètes la cheville, mais tu déclenches un truc fortuit qui est un événement comique qui fait que en fait on va dans une direction qui est intéressante et qui est conforme à ce que tu voulais. C'est pas le même pacte. Dans les deux cas, ces deux pratiques sont pratiquées et sont valides et ont des intérêts. Y en a une autre, c'est par exemple l'enjeu. Si l'enjeu c'est sauver le monde, c'est pas la même chose que si l'enjeu c'est trouver l'amour de son personnage. Retrouver ses parents parce qu'on est orphelin pour son personnage, etc. Et c'est encore pas la même chose si ce qu'on met en jeu au travers du jeu, c'est son rapport à soi. En secret, les autres joueurs ne le savent pas, mais nous, c'est ça qu'on vit pendant la partie. Son rapport à soi, au chagrin d'amour, au deuil, à la trahison, pour le coup, à des sujets lourds comme ça. Donc, tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels il y a un engagement quand on s'assied à une table de jeu de rôle. Est-ce que cet engagement est tenu ? Pas forcément, parce que cet engagement, dans 99% des cas, il est implicite. Avec des potes qu'on connaît bien, on a notre langage à nous et on se dit on va faire une partie comme machin. On se comprend. La plupart du temps, notamment dans les parties publiques ou avec des gens qu'on connaît mal, on n'en sait rien de quelles sont leurs attentes. On ne s'est jamais posé cette question. Or, elle est fondamentale. On parle du jeu. Le jeu, c'est une activité humaniste, c'est une activité sociale, c'est une activité collaborative. Il n'y a pas plus collaboratif que le jeu de rôle ou le GN, voilà. Mais c'est plus collaboratif que des jeux de duel ou d'opposition, comme les échecs, le poker, etc. Donc, si on ne sait pas poser la question de ce qu'on appelle en sociologie les modes d'engagement dans le jeu, on ne sait pas ce que les gens attendent et on n'est pas sûr de faire des trucs fun. Et donc, on va provoquer peut-être de la frustration, peut-être de la souffrance. Mais peut-être aussi, et vous l'avez tous dit, des potentialités intéressantes vont se révéler. Donc, ma conclusion, c'est le jeu de rôle, et ce n'est pas un scoop, c'est comme le sexe. On peut vous en parler, vous pouvez l'observer, si vous n'avez pas pratiqué, vous ne savez pas ce que c'est. Première chose. Deuxième chose, comme le sexe, si on s'en tient à la conformité à ce qui a été prescrit, c'est de la vanille, et on se fait chier. Au bout d'un certain temps, on finit par se faire chier. Mais quand on introduit des variétés, on prend un risque, parce qu'on révèle des choses sur soi, et on amène l'autre dans des situations d'inconfort. Et donc, le jeu de rôle, c'est un espace de liberté qui est donc
bravo.
Absolu, puisqu'en jeu de rôle, on peut tout faire.
Joli.
Mais c'est donc nécessairement un espace de responsabilité, parce que puisqu'on peut tout faire, on ne doit pas faire n'importe quoi. Donc, on peut essayer n'importe quoi, mais comme dans le sexe, on a la responsabilité absolue que, à la fin, les gens vous disent « Ah, t'as bien fait, c'était cool. » Sinon, on leur a fait très mal, et on s'est fait très mal, et on a fait très mal à la relation. Et on a vendangé la partie, l'interaction, l'occasion qu'on a.
Et juste, tu vois.
Donc, le jeu de rôle ne peut pas se pratiquer s'il n'est pas assorti de lucidité, perspicacité, discernement, sagesse, sens de l'à-propos, intelligence des situations.
Pizza.
Aussi. Il ne peut pas se pratiquer sans sens de la répartie, ingéniosité, vivacité, rapidité d'esprit. Il ne peut pas se pratiquer sans courage, assumer les conséquences de ce qu'on a fait. Il ne peut pas se pratiquer sans empathie, se mettre à la place de l'autre. Ce qui est la base du jeu de rôle. En jeu de rôle, on dirait que je serais un bon et que tu serais un méchant. C'est la base du jeu de rôle, l'empathie. Et donc ça, je ne sais pas pour vous que je l'ai préparé, c'est pour vendre des apocalypses de zombies à 20 000 balles à des entreprises. Ça, c'est le cycle du jeu de rôle.
Alors c'est hyper intéressant, je te pirate un peu parce que tu voulais parler Thomas, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu arrives à des conclusions que justement ont été vachement développées depuis 2010, en théorie, sur la notion de contrat social, sur la notion de sécurité autour des tables de jeu qui ont été importées. Ben c'est pas mal, ouais, du coup c'est pas mal. Mais effectivement, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont vraiment prises en compte par beaucoup de monde, des problématiques justement pour permettre d'explorer des thématiques limites en posant des garde-fous de sécurité pour être sûr que tout le monde puisse continuer à jouer ensemble. Et exactement, ça en fait partie. Voilà la carte X de John Stravopoulos qui permet justement d'interrompre une partie quand on a, enfin pas une partie, mais d'interrompre une situation lorsque on touche à un thème qui est dangereux pour la personne sans avoir besoin de s'expliquer, sans avoir besoin de se justifier ni rien. Donc il y a des tas de choses qui sont mises en place et qui effectivement résument, je pense que c'est une très bonne définition de tous les enjeux que nous on a pris l'habitude de désigner sous le terme de contrat social. Voilà.
Donc moi j'avais un gros placard à placer, mais du coup avant je vais peut-être laisser la parole à Valentin.
Ok, bah, comme tu veux. Moi,
très bien.
J'avais peut-être un truc à dire là-dessus, donc c'est parce que t'as dit placard, du coup t'entends quoi par placard
immersion.
D'accord, placard immersion. Ok, t'entends quoi par placard immersion? Non, je veux dire, tu veux rebondir dessus ou tu voulais
passer à autre chose? Je voulais passer à autre chose. Alors, si tu as juste une réaction vite fait.
C'était pas forcément vite fait. En fait, je trouvais que je voulais mettre en rapport ce que tu venais de dire, du coup, avec la notion de communication, qui est quelque chose que je trouve intéressant actuellement dans les jeux que je développe. Je pense à un jeu, par exemple, comme Burning Wheel, qui n'est pas de moi, par contre, pour le coup, où les joueurs inscrivent dès le départ ce qu'ils veulent pour leur personnage, sa volonté, ce qui est une forme de communication avec le meneur pour dire « voilà ce que je veux ». Donc, si tu t'y opposes, tu pourras pas dire que je t'étais pas prévenu. Donc là, c'est une forme de trahison. Là où peut-être le problème que j'avais avec les jeux plus traditionnels que je pratiquais au départ, c'était peut-être un problème de communication. Est-ce que le jeu proposer peut-être un système trop vaste, ce qui fait que ça communiquait pas avec les joueurs sur ce qu'on voulait faire. L'univers était peut-être lui-même trop vaste. Moi-même, j'étais peut-être finalement assez flou sur ce que je voulais. Peut-être que les joueurs eux-mêmes étaient assez flous sur ce qu'ils voulaient de la partie elle-même et osaient pas le dire. Voilà, et c'est pareil pour Libreté, voilà, que j'ai développé. On a découvert qu'il y avait des outils de communication qui étaient intéressants et que. Et c'est des choses que j'ai cassées récemment, quoi. Au départ, c'était pas des outils de communication, c'était des outils de d'enfermement en quelque sorte. C'était vous jouez comme ça, voilà. Vous avez de la bile noire qui monte en vous, donc ça va vous faire craquer. Vous avez pas le choix. Vous gagnez tant de bile noire quand vous faites une action. C'est extérieur à vous. Maintenant, c'est devenu un outil de communication. Vous en prenez pour témoigner du fait que pour envoyer ouais, quelque part un message, voilà. Et du coup.
Et diablement efficace. Du coup, je te laisse parler juste après parce que je voulais juste revenir. Il aurait parlé, je pense, Valentin. À propos de cette communication, ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ce qu'on a dit, c'est que j'ai l'impression que, en parlant de toutes ces notions-là, on parle du début de la partie. Il ne faut pas oublier que tout ça se renégocie en permanence tout le temps. Voilà. Voilà, ok. C'est juste ce que je voulais dire.
D'où l'importance d'avoir des outils qu'on peut utiliser pendant la partie en permanence sans aller forcément recourir tout de suite le safe word qui dit stop, qui est pour moi déjà c'est signe que la communication est mal passée jusque-là et qu'il y a un moment où on coupe la communication parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. Quoi.
Vous savez, en psychologie, on dit que la bienveillance, elle s'exerce, il y a deux conditions préalables qui sont la clarté et la réciprocité. Donc, comme n'oublions pas que le jeu de rôle, au-delà du fait que c'est une forme d'activité ludique qui particulièrement a un certain élitisme, un certain intellectualisme, une certaine voire prétention, etc., ou en tout cas qui est perçu par les gens qui ne le pratiquent pas, mais qui pratiquent des jeux connexes comme étant relativement des gens qui se la pètent, n'oublions quand même pas que c'est un loisir, quoi. Qu'on est là pour se fendre la gueule et qu'on va sauver des princesses qui n'existent pas, gagner des trésors qui n'existent pas. Donc, peut-être qu'on peut être clair entre nous, qu'on peut penser à la réciprocité, à qu'est-ce que je fais pour l'autre et qu'est-ce que je demande à l'autre de faire pour moi, et que ça crée de la bienveillance dans les parties. Tom a dit un truc maintenant.
Ouais, donc je vais vous parler de deux choses, en fait, c'est l'incomplétude et l'émergence. Ça veut dire quoi, ces thèmes barbares ? L'incomplétude, Olivier Calra, dans Les Forges de la Fiction, il explique que le jeu de rôle, c'est un jeu pas comme les autres. C'est que c'est un jeu de rôle dont les règles sont incomplètes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on prend un jeu d'échecs, c'est un jeu complet parce que le nombre de combinatoires de coups possibles, il est fini. Il peut être très grand. Dans le jeu de Go, je crois que c'est des millions de combinatoires possibles. On me dit beaucoup plus. Mais c'est fini. C'est un ensemble fini. Et en fait, le jeu de rôle, les coups possibles, c'est un infini. Donc, à une situation donnée, les personnages peuvent réagir d'une infinité de façons différentes. Alors, après, tu peux toujours contraindre des aspects. Par exemple, dans Perfect, il y a plein de choses qui vont être contraintes. Tu es obligé de commettre un crime, tu es obligé de te faire arrêter, tout ça. Mais même dans Perfect, il y a une infinité de choses qui sont possibles. Et donc, grosso modo, les règles, le scénario, le MJ... Ils vont essayer de prévoir des coups et en fait il y a ce qu'on appelle l'émergence, c'est ce qu'ils n'ont pas pu prévoir. C'est la totalité des coups qui n'ont pas été prévus justement par le livre, par le scénario, par le MJ. Ils peuvent essayer de contraindre cette émergence en donnant des directives soit très franches, récompensées par des sucres, ou alors de façon plus discrète et élégante. On peut essayer de contraindre l'émergence dans un sens, mais ça reste une force libre dans la majorité des cas. Donc déjà, ça veut dire que voilà, quand on démarre une partie de jeu de rôle, il y a une infinité de coups possibles. Cette infinité, c'est l'émergence. Et donc, par exemple, et cette émergence, c'est toutes les joueuses de la table qui y participent, toutes les joueuses qui apportent une infinité de coups imprévisibles. Et donc, par exemple, quand j'essaye d'émuler un genre narratif, ah bah tiens, on va faire une partie, on va faire du pulp. Et ben, sauf qu'en fait, chaque joueuse, elle va amener sa propre idée de c'est quoi le pulp. Je vous donne un exemple vécu. Je lance une partie, je dis, on va jouer des super-héros un peu badass, un peu déchus à la Watchmen. Et ben, en fait, pour chaque joueuse, j'avais une vision différente de ce que j'avais proposé. Il y a un joueur, il m'a fait je joue un pirate, j'ai pas de pouvoir et je recherche un livre. Et on a passé toute la partie à lui expliquer que ça cadrait pas du tout avec la vision de ce qu'on avait de la commande, en fait. La plupart du temps, les parties, ça n'est fait que de ça. C'est-à-dire, c'est des fanfictions à plusieurs où chacun va amener sa propre vision de truc. On fait du space opera. Il y en a qui vont jouer Jar Jar Binks, il y en a qui vont jouer un Predator.
Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi la personnalité
Il faut un micro plus.
Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas justement la personnalité? Bon, ça dépend du jeu. Il y a des jeux qui sont effectivement, qui ont une thématique qui ne permet pas d'avoir un certain niveau de souplesse. En Ghostbusters, on arrive en train d'essayer de jouer un fantôme du 19e siècle ou un chasseur de la Ardéchois, ça ne va pas le faire. Mais on a quand même réussi à faire une partie avec une druide acidique.
On a fait une partie de Pendragon avec une druidesse acidique. Oui,
voilà, quand même, parce que la copine en question, elle était juive, très juive, très très juive. Elle nous a fait rigoler pendant tout le jeu parce que elle incarnait son personnage. Elle a réussi à suivre tout le jeu en étant vraiment dans son personnage. Donc elle l'avait laissé aussi de côté qui elle était, mais pas la culture qu'elle a et ce qu'elle avait pu apporter au jeu. Et ça a créé une expérience qui était ludique. Donc après, je crois que ça dépend du jeu. Je crois qu'il faut prendre en compte ça.
En même temps, je trouve que tu vas dans mon sens, que tu me donnes un exemple d'émergence, en fait, de situation absolument imprévisible.
Juste pour... Je tiquais un petit peu quand tu parlais de potentiel infini et que tu comparais le Go au jeu de rôle. Quand les potentialités mathématiques deviennent tellement grandes en une vie, on peut difficilement les explorer, l'infini, on y touche presque. Et d'un autre côté, en jeu de rôle, l'infini est limité par les expériences de chacun des joueurs et des joueuses à la table et sa culture et ce qu'il apporte. C'est un infini qui est en pratique non infini, alors que le fini du Go va être...
Non, ouais, je suis d'accord.
Je pense que
le propos de Thomas était un concours de pénis et de dire que.
C'est pas mon propos non plus.
Manque le Go.
Non.
Le sujet, c'est que le Go est un jeu axiomatique dans lequel le nombre de coups possibles est calculable.
Oui, tout à fait.
Et on pourrait faire jouer des ordinateurs au Go. Et pour peu qu'ils jouent assez
vite, suffisamment nombreux, on aurait toutes les. Je vais te dire la chose différemment.
Le rôle, c'est différent. C'est nul ne peut anticiper ce que les gens vont en faire.
La finitude n'est pas mathématique, elle est humaine.
C'est ça.
Voilà.
Les coûts des joueurs peuvent être infinis, mais ce que tu veux dire, c'est que par contre, ils peuvent être prévisibles, parce qu'en fonction de la culture...
Je ne suis pas persuadé qu'ils puissent être infinis, je pense qu'on est conditionné par un certain nombre d'éléments.
Ils sont pas infinis, mais ils sont infiniment variables. Il n'y a pas de limite à leur variabilité. Ouais.
Globo.
Alors moi, je vais reprendre la main, parce qu'un de mes dadas et un des tout premiers podcasts de Voix d'Altaride ont parlé de la gentilité. Et c'est un rapport à... moi, je m'en fous qu'il y ait
de
la gentilité.
La gentilité.
La gentilité.
Le fait d'être un agent.
Voilà.
Absolument, oui. Tout à fait.
Voilà, un agent qui peut prendre des décisions. Et on en était... Enfin, moi, une de mes conclusions par rapport à cette idée-là, c'est que je m'en fiche d'avoir une infinité de possibilités. Je veux quelques possibilités qui soient pertinentes, discriminantes, influentes. Et quand on dit « on peut tout faire », dans tout, il y a aussi beaucoup de trucs qui ne sont pas pertinents, qui sont complètement nuls, qui ne servent à rien, et c'est la majorité des cas. Mmh. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas avoir un choix infini, c'est avoir des choix qui...
Des choix signifiants plutôt que des choix infinis.
Voilà.
On s'éloigne du sujet, en même temps, c'était intéressant.
Juste pour finir sur les...
C'est d'ailleurs une des critiques qu'on fait souvent à Shadowrun. On dit, dans Shadowrun, on peut créer n'importe quel personnage, mais dans ce n'importe quel personnage, je veux dire, le mec qui crée un comptable qui ne veut pas sortir de son bureau corporatiste, est-ce qu'il est dans la proposition de jeu de Shadowrun, quoi?
Oui, juste pour... Moi, j'ajouterais aussi on peut aussi étudier les possibilités du jeu de rôle par le biais notamment de la narratologie et tout ça, on en parlait récemment, qui constitue avoir derrière l'apparence, infinie du décorum, des fonctions, des situations qui se répètent finalement. Donc quelque part, est-ce que derrière l'aspect infini du détail, il n'y a pas finalement un nombre fini de possibilités, pas si indénombrable que ça.
Est-ce qu'il y a des moments où on corsette, effectivement?
À nouveau, la plupart des jeux, et c'est même agaçant, vont revendiquer le fait que vous pouvez créer n'importe quel personnage, sauf que, il y a des limitations. Il y a des Shadowrun. dans Shadowrun, ouais, comme tu mélanges la fantasy, la hard fantasy, la geek fantasy, donc avec des interprétations donjonaux jeux vidéesques de créatures mythologiques, plus le cyberpunk, oui, ça crée énormément de possibilités, mais enfin, si tu veux jouer une créature qu'ils n'ont pas prévue, soit tu convaincs le meneur que tu n'as pas truandé tes statistiques et qu'il n'est pas déséquilibré, soit tu ne peux pas le jouer, tu as une liste, voilà, tu joues un orc, tu joues un troll, tu joues ce qui est prévu. Tu peux imaginer, toi, des prothèses cybernétiques, si elles ne sont pas décrites dans le jeu, voilà. C'est pas un jeu à la Minecraft où tu peux créer l'univers en même temps que tu joues dedans. Il y a des jeux, voilà, un de ceux que je vais faire jouer au RJDRA, que Bouclier connaît bien parce que je l'y ai présenté tous les ans, il permet de faire ça. Il permet d'imaginer aussi les règles de l'univers en même temps que tu joues dedans. Deuxième chose, et tu l'as dit, c'est vachement important, de toute façon, ouais, si ce que tu joues, c'est un comptable qui va acheter les baguettes de pain, Advanced Comptables and Baguettes, c'est pas un jeu qui a beaucoup de succès parce qu'on s'y fait chier souverainement. Donc il y a toujours un postulat que tu vas réagir à l'aventure. Alors soit on fait des trucs un peu débiles à la Tintin, ou dès que tu mets un pied hors de chez toi, damned des gangsters, mais c'est pas crédible au bout de 4 parties, sauf si c'est parodique. Et on revient sur ce que tu disais, on fait un l'œil noir.
Milou, au secours.
Justement, c'est cliché. Et on utilise les règles du genre pour faire règles du jeu, et on joue. Cette naïveté, ce truc un peu ridicule. Mais sinon, ouais, il y a plein d'univers où tu peux parfaitement créer des personnages conformes au système de jeu qui n'ont rien à faire pendant les scénars.
Alors, si tu...
Mais est-ce que c'est un problème ? J'ai vu des joueurs qui faisaient ça, qui créaient des persos qui n'étaient qu'un avatar pour regarder ce qui se passe dans l'univers virtuel du jeu, qui n'y foutaient rien, ou 3 jets de dés quand c'était tout le groupe qui était concerné, etc., ou qui faisaient des remarques ou des blagues, qui étaient contents d'être là, parce qu'ils étaient spectateurs, comme tu le disais, d'une fanfiction collaborative. Mmh. Ou en gros, ce qu'ils faisaient, c'était la ponctuation. Alors, ils participaient à la fanfiction collaborative quand même. Et c'est légitime.
Ouais, donc si tu me permets, Thomas, ce que je voudrais juste finir avec ce que...
Pardon.
Là où ce que je voulais amener la chose, en fait, c'est que, du coup, par ce caractère de fanfiction à plusieurs, où chacun collabore, en fait...
J'aime beaucoup cette idée.
On peut pas... Enfin, ça me semble impossible, illusoire, de vouloir émuler un genre narratif à travers une partie de jeu de rôle. On va en fait produire un méta-genre qui est unique à chaque table, à chaque partie, fruit des créations des différentes joueuses. Et en cela, c'est difficile de mettre une étiquette de genre sur un jeu tant la tentative semble vouée à l'échec. À moins que les joueuses abandonnent leur propre créativité pour se soumettre entièrement à des directives de game design qui couvriraient en fait tant d'aspects qu'on se rapprocherait plus d'une interprétation d'un script que d'un jeu de rôle. Qualifier alors le style d'un auteur ne me paraît pas pouvoir relever d'une science exacte. Il me semble que c'est là un travail de critique, pas d'analyste. C'est-à-dire que, est-ce que ce serait plus fertile d'admettre que l'appréciation du style d'un auteur ou du style d'un jeu, d'une maîtrise, relève de la logique floue, du sentiment voilà. Et là-dessus, j'aimerais donner la parole à Valentin, parce qu'il me semble que en fait, tu as fait des entretiens avant de venir.
Oui, attention. Hein. Gros niveau.
Et si vous lui demandez les stats, il les a. Hein.
Non, ouais. Alors, il y a eu deux sources, en fait.
Moi et mon nounours.
Non.
Et 47% du nounours interrogé.
Ouais, tout à fait. Non, l'idée, c'était en fait de demander l'avis aux gens. Quoi. Parce que moi, j'ai un avis, mais qui n'est pas très intéressant. Du coup, je vais demander à des membres de mon association de jeux de rôle, qui s'appelle la Boîte à Chimères, que je salue. Leur avis, et ça prenait la forme de ce qu'on appelle un entretien semi-directif. Alors c'est très simple, je commence par des petites questions sur leur âge, là où ils habitent, etc. Et ensuite des questions un peu plus orientées. Donc comme je suis vachement bien préparé, j'ai oublié le questionnaire chez moi, mais les questions portaient sur la nature, sur la position des règles dans une partie de jeu de rôle. Donc notamment sur, alors il y avait une question particulière qui était: est-ce qu'il est possible de respecter toutes les règles d'un jeu de rôle à la lettre ? C'était la première question. Deuxième question, c'était: est-ce qu'il est souhaitable d'essayer de respecter toutes les règles d'un jeu de rôle pendant une partie de jeu de rôle ? Ensuite, il y avait qui est responsable de la qualité d'une partie de jeu de rôle ? Est-ce que c'est le meneur de jeu quand il y en a un ? Est-ce que ce sont les règles ? Est-ce que ce sont les joueurs ? Voilà. Et donc, il y a eu... En fait, il y a eu... Donc, ces questions servent d'amorce pour notamment un entretien, en fait. Pour en parler, pour en discuter, etc. Et en fait, c'est plutôt ça que je traite, en fait. Sachant qu'il me faudrait un panel significatif et représentatif pour traiter les questionnaires eux-mêmes. et les réponses. J'ai préféré...
Déjà, là, t'en as 10.
Ouais, donc j'ai eu 9 entretiens avec les membres de l'association. En plus de ça, avec Tooni, on a posté le sondage sur un réseau social qui s'appelle Reddit, que vous connaissez sûrement. Et donc, il y a eu moyen aussi de traiter les commentaires à ce questionnaire, quoi. Du coup, j'ai pu un peu croiser deux sources, voir un petit peu ce qui remontait, ce qui remontait pas.
Alors, est-ce que tu as fait des analyses de variance des
J'aurais pu. Il y a des trucs qui sortent. Bon, c'est un peu technique et c'est pas très intéressant parce que...
Sur 9
Ouais, voilà, il y a 9 personnes de mon asso qui ont répondu, ce qui est déjà beaucoup. Il y a 26 personnes sur Reddit. Alors, sur la communauté RPG de Reddit, ça représente rien. Et je peux pas contrôler la représentativité des individus. Donc, je pourrais faire des analyses de variance. Ce serait quand même assez faible, quoi. Par contre, je trouve que les commentaires à la suite des questionnaires sont assez intéressants. Et donc, il y a plusieurs blocs de choses qui reviennent assez fréquemment, quoi. Quand on demande aux gens... voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces questions? Il y a un premier point. Alors, en termes de trahison, il y a deux façons de voir la trahison. Il y a la trahison qui est souhaitée et la trahison qui est subie. Et ça, c'est un truc qui revient quasiment tout le temps. Donc, on en parlait tout à l'heure de ce truc de ouais, la trahison, ça peut être vraiment un sport, quoi, qu'on apprécie en tant que tel. Et alors, quand la trahison est subie, il y a quelque chose qui revient très souvent dans les questionnaires, c'est que les règles sont très denses. Alors, c'est ce qui est peut-être étonnant, mais quand on parle de trahison en jeu de rôle, souvent ce qui revient, c'est la trahison des règles. Donc pas forcément la trahison, comme on l'a évoqué, des attentes de chacun des participants, quoi. Donc la trahison des règles denses, c'est une trahison qui est structurelle. C'est-à-dire que pour un cerveau humain, c'est pas possible de retenir Donjons et Dragons toutes les règles en entier. Avec les suppléments, non, si c'est possible en fait, il y en a des qui.
On va te présenter les personnes. Ouais,
quand j'avais 14 ans, je te citais les pages. Hein. Je dis quand j'avais 14 ans, je te citais les pages. Hein.
Oui, bon, ok. Bon, des cerveaux malades, c'est possible.
Mais oui,
cerveaux sains,
ça pose problème. On a voilà, c'est une ça. Période comme ça. C'est plus général que ça.
Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Ah, bah oui, évidemment, t'es obligé de trahir le livre de règles parce qu'il fait 4 tomes et des règles. Bon, ça revient fréquemment. Un autre truc aussi, c'est bah oui, mais tu vois bien, cette règle, si elle nous fait chier, on va pas la jouer, quoi. Alors, ça, c'est quelque chose qui est culturel et qui revient très souvent, en fait. Comment ?
C'est gaulois.
Oui, c'est ça. Donc, la trahison, là, qui est une réponse à un problème, vraiment, c'est on évite un truc pas cool pour la table. Et le deuxième point, c'est vraiment quand c'est souhaité. Alors là, il y a vraiment les règles comme un escabeau, quoi. C'est-à-dire, bah oui, très bien le livre de règles, très bien ce que veut l'auteur, mais c'est nous qui jouons là maintenant, quoi. Oui, si cette règle-là, on veut la modifier pour faire quelque chose de plus cool encore, alors pourquoi on ne le ferait pas, en fait ? C'est ça qui revient, en fait, dans les entretiens. Le fait aussi de modifier les règles comme pur plaisir de jeu. C'est-à-dire, oui, c'est cool de hacker, en fait. J'ai beaucoup d'entretiens qui disent, bah, mais non, mais juste le fait même de changer les règles, d'inventer des règles, de s'approprier, etc. Et je vois un petit peu de lien avec l'OSR. Alors, j'y connais zéro. Old School Renaissance, un mouvement sorti après l'année 2010.
Qui essayent de rejouer comme voilà, du Donjon et Dragon Boîte Rouge.
À l'époque, ouais.
Donc, mais c'est très bien, c'est très traditionnel. N'oublions pas que Gygax il a inventé le mot role-playing game qui ne veut pas dire jeu de rôle parce qu'il voulait que son wargame se distingue des autres wargames. Donc ça se fait de sortir un jeu qui est comme tous les autres mais de lui donner un nom différent pour faire genre on a inventé un mouvement.
On fait ça en théorie aussi.
Mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'avais pas percuté sur l'acronyme.
Ouais. Et donc voilà, il y a ce truc de la trahison comme vraiment activité intéressante et on joue au jeu de rôle aussi pour s'approprier en fait les règles. Et j'ai beaucoup de ça dans les entretiens, c'est vraiment, bah ouais, on fait notre jeu en fait. La partie, elle est à nous, elle n'est pas à l'auteur, elle n'est pas au livre de jeu.
Quand tu dis les règles, tu parles de mécanique de jeu ou tu parles de règles au sens général ?
Eh ben, j'ai envie de te dire, j'en sais rien, parce que c'est pas moi qui ai répondu aux entretiens.
Ok, d'accord.
Alors après, il faudrait faire une analyse plus fine sur la sémantique du mot, quoi. Qu'est-ce qu'entendent les gens par le mot règle ? Donc voilà. Je termine sur les entretiens. Il y a aussi quelque chose qui revient beaucoup, c'est la vision de la diversité des jeux, des joueurs. Donc on a parlé pas mal, quoi. Mais quand je pose la question, bah oui, est-ce qu'il est nécessaire, enfin, est-ce qu'il est possible de respecter les règles d'un jeu de rôle à la lettre ? On me dit, ça dépend. Est-ce qu'il est souhaitable de vouloir respecter les lettres d'un jeu de rôle, les règles d'un jeu de rôle à la lettre ? On me dit, ça dépend, etc. Et donc, y a, ça dépend de quoi ? Ça dépend du jeu, ça dépend des joueurs, ça dépend de tous les paramètres possibles, en fait. Voilà, de plein de paramètres. Alors du coup, ça dépend, c'est-à-dire que du coup, la trahison, moi, ce que je pense à l'issue de ça, c'est qu'elle n'est pas constitutive d'un jeu, en fait. J'ai la sensation qu'elle peut être vraiment, elle peut prendre des formes multiples, et à mon avis, il est possible de respecter. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort aussi des entretiens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est possible de respecter à la lettre les règles d'un jeu de rôle. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-là, dans le cadre de l'absence de trahison. Voilà, c'est ce qui ressort des entretiens, en tout cas pour cette partie-là.
Ben merci pour ce travail vachement instructif, parce que ça apporte des points de vue qui sont... Ah, c'est objectif le truc. Puisque ouais, le sujet, c'était au moins autant rebondir que trahir, je voudrais rebondir
Thomas, sur... Attends, juste, Julien, une petite réaction.
Juste un tout petit truc sur la lettre de la règle et la lettre l'esprit, mais... Il y a des jeux, des gros jeux avec un gros suivi comme Donjons & Dragons 3.5 que j'ai pas mal suivi, qui arrivaient aussi avec des errata, signifiant que la règle qu'il avait proposée peut-être avait gagné à être modifiée ou en tout cas à être précisée, et parfois c'était réellement modifié parce que tel sort était cheaté, parce que tel combinatoire, quand on la mettait dans l'ensemble qui était devenu très complexe, on s'apercevait que ça provoquait des courts-circuits. Donc cette notion de est-ce que qui était en position de trahison, voilà.
Ouais, c'est vachement intéressant ça, le qui trahit.
Alors je sais qu'on sort peut-être un petit peu du cadre.
Donc Xavier n'avait rien à dire.
Ouais, j'ai tradit, hein, désolé.
Toujours se méfier des mecs qui...
Toujours se méfier de Lobo qui... Enfin bon, bref. En imaginant qu'on ait réussi à apporter des jeux de rôle sur un ordinateur, à partir du moment où le garant des règles est l'ordinateur, est-ce qu'on peut ne pas jouer complètement la règle ? Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, mais alors après, le support des règles d'un jeu de rôle, c'est le langage, quoi. Le langage naturel.
Ah, ça m'intéresse.
Donc, c'est difficile de comparer une application, voilà, de règles qui serait sous forme d'un langage informatique. Alors, ouais, d'un langage particulier
même un jeu de rôle textuel informatique, c'est pareil, c'était avoir du mal à comparer avec ouais, ce qui s'observe dans le jeu de rôle.
C'est formaté, c'est pas du langage naturel. Bon. Il y a des choses que vous avez dites dans vos expériences personnelles qui m'intéressent vachement parce que ça résonne avec les miennes. Par exemple, est-ce qu'on peut jouer complètement les règles d'un jeu ? Moi, au début, quand j'ai découvert j'ai toujours joué aux jeux de rôle. Et puis un jour, je me suis aperçu qu'il y avait des mecs qui en publiaient. Alors bah, du coup, je les ai achetés. Puis j'ai essayé d'y jouer. Puis comme je suis gentil et qu'on est tous formatés par les jeux de société, on est formatés par le Milborn et le jeu de loi, quand on découvre un jeu, c'est le paradigme ludique qu'on a en tête. Quand on vous dit « t'as acheté un jeu objet, tu vas y jouer », on fait ça, on lit les règles et on les applique. Et donc, j'ai fait ce que, je ne sais plus si c'est Vivien ou Thomas qui l'a dit, c'est Thomas qui a dit « je fais des fiches où je résume le système en une fiche ». Je me le suis fait, je peux vous montrer les fiches que j'ai faites sur Rookmoon, sur Stormbringer, sur RuneQuest, où j'avais tout le système,
ouais, je l'ai fait aussi, hein,
mes
je crois
abréviations
qu'on est nombreux
à moi
faire
et
ça...
mes trucs. Et oui, je les faisais jouer avec tout. Et donc, le machin qui fait un D4 de dégâts, il ne fait pas un D4 plus 1. Et tu fais ton jet pour voir si tu recules, et si tu cries, et si tu as mal, et si tu saignes, et machin. Et oui, on peut le faire. Et puis, à force de l'avoir beaucoup fait, on voit que ça ouvre des possibilités. Et on voit aussi comment le système a été conçu. Et on comprend qu'il a été conçu par des humains. Et que de même qu'il faut... Enfin, qu'au bout des années 80, tout le monde comprenait que les comics ne racontaient pas la vraie chronique d'un vrai personnage qui s'appelle Peter Parker ou Bruce Wayne. Parce que tu changes trop, trop souvent d'auteurs qui ont des styles trop différents et tu vois que c'est indémerdable. De même, tu dis, c'est pas possible. Je suis dans Rollmaster, je vois les tables de compétences et je m'aperçois qu'en fonction de ma classe de personnage, je n'ai pas la même rapidité de progression de la compétence résister à la lycanthropie. Où les bardes et les moines ne résistent pas de la même façon à la lycanthropie. What the fuck ? Ces chiffres sont aléatoires. Il n'y a pas de système. Il n'y a pas d'intelligence systémique derrière. C'est des tables, c'est des chiffres. Donc, puisque c'est n'importe quoi, j'en ai rien à foutre, en fait. Donc, ça, je trouve ça vachement intéressant. Et tu disais, mes premières parties ont été très frustrantes.
Sous un certain angle, attention, je veux pas non plus que mes anciens camarades s'imaginent que je me suis fait chier pendant 12 ans avec eux.
Non, mais écoute, ils ont compris quoi.
Mes premières parties ont été terriblement frustrantes pour ça. Parce qu'on m'avait expliqué que le jeu de rôle, c'est génial, ça va être une fanfiction collaborative. Je parle de la fin des années 70. Et j'étais pas en train de faire une fanfiction collaborative. J'étais en train de jouer, d'être avec des mecs qui jouaient au Milborn ou au jeu de loi. Sauf qu'au lieu de pousser des pions, on poussait des elfes ou des mechas ou des zombies. Mais on jouait au jeu de loi. Et moi, ça m'a profondément fait chier, parce que le jeu de loi ne m'intéresse pas. Au jeu de loi, je me dis, ouais, d'accord, mais là, je tombe dans le puits, mais on dirait que
tu peux roleplayer loi, quand même.
j'ai toujours fait du jeu de rôle, j'ai toujours joué au Milborn et au jeu de loi comme à des jeux de rôle, et donc, j'y ai pas joué, je me faisais sortir des tables. Bon. Et donc, quand j'ai vu que les tables de jeu de rôle reproduisaient le même sentiment, j'ai terriblement souffert. Et je me suis barré faire autre chose. Et ça a complètement conditionné ma vision du jeu de rôle autour de trois choses qui, à mon avis, sont importantes. La première, c'est... Il n'y a pas de règles en jeu de rôle. Il y a un système de résolution, ça n'est pas de même nature que les règles du jeu de loi ou des échecs. La différence, c'est quoi? C'est, j'ai expliqué ça mille fois, vous avez mille interviews, mille papiers de moi qui l'expliquent, mais bon. Aux échecs, aux jeux de loi, aux Milborn, c'est des jeux à enjeu, c'est des jeux compétitifs, c'est des jeux où à la fin, il y a des gens qui ont gagné, il y a des gens qui ont perdu. De ce fait, des joueurs qui ont gagné ou qui ont perdu. De ce fait, il y a des conditions de victoire limitatives. Et il y a un système de règles qui détermine si les mouvements que vous avez faits pour accéder à la victoire sont loisibles ou pas. S'ils ne sont pas loisibles, vous avez triché. S'ils sont loisibles, vous avez gagné. Si vous avez fait des mouvements loisibles mais pas gagné, vous avez perdu. En jeu de rôle, non. Ton personnage, il peut mourir, il peut être blessé, il peut être désavoué, il peut perdre sa femme, ou il peut vaincre le méchant, trouver le trésor, sauver la princesse, sauver la rébellion, trouver les plans de l'étoile noire. Mais toi, rien. Toi, tu passes un temps agréable avec des gens agréables sur des thèmes agréables. Ou pas. Et tu aides les autres à passer un moment agréable, ou pas. Donc, les machins où on lance des dés, où on note des chiffres, c'est pas des règles, au sens des règles des échecs, parce que ça ne détermine pas le succès du joueur. C'est un système de résolution, c'est-à-dire une interface conventionnelle entre ce qu'il y a dans votre tête individuelle et ce qui se passe dans l'univers où vos personnages agissent. C'est l'écran de l'ordinateur si c'était un jeu d'ordinateur. C'est la modélisation de l'univers partagé. En revanche, il y a des règles en jeu de rôle, et ces règles sont sociales. Et on les a esquissées avec le contrat social, la carte X, le machin. C'est, si on a dit qu'on jouait au cow-boy, tu vas pas dire, ouais, mais on dirait que j'aurais un champ de force. Quand on avait 5 ans et qu'on jouait, on dirait qu'on serait des cow-boys, qu'on fait pan, t'es mort. On dit, bah non, on dirait que j'aurais un champ de force. Mais t'es con, on a dit qu'on jouait au cow-boy. Les champs de force, c'est dans Star Wars. T'es nul. Puis d'abord, je joue plus avec toi. Mais je serai plus jamais ton meilleur ami de toute ta vie. 10 minutes après, on est à nouveau pote. Mais c'est des éléments, on s'en souvient, c'est des éléments de clash.
T'es prêt pour Liberté, toi, à fond.
C'est des éléments de clash. Donc en jeu de rôle aussi, c'est des éléments de clash. Donc il y a la fidélité à l'univers, il y a la fidélité à la parole donnée. Mais attends, t'avais dit que tu faisais ça. Non, mais c'est bon, donc t'as ouvert la porte, elle t'a pété au nez. Non, mais en fait, putain, tu fais chier, assume un peu. Voilà. Donc on revient sur liberté et responsabilité. Donc, oui, on peut jouer avec les règles, mais comme c'est un système et pas des règles, si on les applique pas, c'est pas grave.
C'est un truc pour aller dans ton sens. Moi, je m'appuie sur les entretiens. Hein. J'ai pas d'avis, j'ai pas d'individualité, donc.
Rien.
Ouais, j'assume zéro.
T'inquiète, je vais assumer derrière.
Ouais, juste pour aller dans ton sens. J'ai eu l'occasion, du coup, de discuter avec un auteur de jeux de rôle amateur, qui sera là d'ailleurs pendant la convention.
Tu peux dire qui c'est ou pas?
Je sais pas s'il est ok avec ça. Donc a priori, je vais pas prendre le risque.
C'est ma question.
Donc lui, il dit le fait même d'écrire des règles est une trahison de l'esprit de l'auteur. Et je trouvais cette phrase assez cool. Et donc, il m'a expliqué que...
J'aurais dû y penser, c'est encore plus trollesque que ce que j'avais balancé.
Donc, juste pour détailler rapidement, et je laisse parler. Dans l'idée, c'est vraiment... lui, il a une vision de ce qu'il veut dans la partie, ce qu'il veut transmettre comme sensation, comme univers, etc. Et il dit, mais juste le fait de mettre des règles, c'est trahir ça, quoi. C'est trahir ce que je veux dire, en fait. Donc voilà, ça me semblait un peu aller dans ton sens.
Ouais, mais c'est vachement.
Alors, vas-y. Attends,
je peux, on peut le faire. Je voudrais juste dire mes deux trucs, mais je peux les faire en étant. Enfin, j'ai pas de problème.
Alors, c'est en rapport ou parce que sinon j'ai un truc à te dire sur ce que tu disais juste là.
Alors, vas-y, ouais. Sur ce sujet.
Alors sur ce sujet-là, je suis absolument pas d'accord avec toi.
Yes.
Mais clairement pas. Alors. Je rectifie, je suis pas d'accord avec toi parce que tu ne prends en compte qu'une partie du jeu de rôle. Tu as aussi du jeu clairement compétitif, clairement avec des règles dont tu as besoin pour déterminer un vainqueur. Ça existe et ça reste du jeu de rôle.
Est-ce que tu peux me citer
les... Je peux... Alors,
parce que je les ai pas vus.
Tu connais Ambre ?
Il y a Agoun, par exemple.
Mais à nouveau,
non, mais Ambre, tu connais.
Scipion a essayé de me faire jouer un scénar de sombre qui soit compétitif.
Non, mais tu connais Ambre. J'ai joué le jeu de rôle Ambre. Voilà, super. Tu connais la course au trône?
Oui.
Mais nous, quand on jouait, eh ben toi, tu gagnes que t'as écrasé les autres parce que c'est toi qui es devenu le roi.
Non, ton personnage, il est devenu le roi.
Bien sûr, mais t'as piloté ton pion pour réussir à gagner et à être meilleur que les autres.
Oui, ok, t'as gagné la partie. Voilà, c'est ton perso qui a gagné la partie parce que c'est pas toi.
Non, c'est toi qui a gagné la partie. C'est toi qui as su. Alors, on va dire différemment. On va pas s'énerver, on va dire différemment. T'as su piloter ton personnage de manière à remporter la partie en respectant les règles et en respectant des mouvements autorisés.
Il y a un engagement à jouer compétitif, à jouer contre les autres personnages.
Alors ça me fait un peu mal de défendre ça, je dois l'avouer, mais...
Mais attends, sauf que tu n'es pas obligé de jouer comme ça. Regardez dans les romans d'Ambre...
Ah non, tu n'es pas obligé, mais ça existe.
Moi, quand j'ai joué à Ambre, je jouais toujours le mec qui faisait le comic relief, le mec qui n'est pas dedans, le mec qui n'est pas dans la compétition. Et ça n'est pas... illégitime, et ça n'empêche pas les autres de jouer.
Alors quand je parle de course au trône à Rome, c'est un mode de jeu particulier. En général, quand on faisait ça, c'est vraiment, on se disait voilà, là samedi soir, on est 10, on va se faire une putain de course au trône, on va se faire les persos pour ça, on va s'affronter, on va se trahir, on va respecter un certain nombre de règles, et on va voir qui est le meilleur ce jour-là, à ce moment-là.
D'accord,
voilà.
Donc moi ça me pétait les couilles, c'est là que je mourais au tout début.
Exact, mais moi aussi, donc, c'est pour ça que ça me fait mal de le défendre.
En fait, on est d'accord, ça me va.
Et il y a des jeux de société collaboratifs.
Je posais compétitif collaboratif. Après,
je propose qu'on passe à autre chose. Là, je pense
collaboration.
Ah non, moi je ne peux pas laisser passer ce qui a été dit. Je suis désolé. On a deux personnes qui sont très clairement exprimées contre le fait que les règles étaient une trahison de l'esprit, de la créativité de l'auteur et compagnie.
Je suis pas d'accord.
Alors là, je m'inscris en faux. Mais alors 400%, c'est juste impossible. On a des règles du type René le jeu de rôle romantique.
Absolument.
Les caractéristiques vieillesse, ennemi.
Mais non, rage, désespoir, vieillesse, ennemi.
J'en bafouille. C'est juste impossible de jouer à René si tu n'as pas rage, désespoir, vieillesse, ennemi. Il y a énormément de petits exemples de jeux de société, Cthulhu, la santé mentale de Cthulhu. Est-ce que tu peux jouer avec Cthulhu sans la santé mentale?
Oui.
Tu ne joues pas avec Cthulhu à ce moment-là. Tu joues un autre jeu dans l'univers de Lovecraft. Tu ne joues pas avec Cthulhu. C'est fondamental, et c'est fondamental parce que ça a un impact. Et ça apporte quelque chose à l'ensemble des joueurs dans le contrat social, entre guillemets. Il y a un moment donné, on risque de perdre de la santé mentale et ça va être un vrai problème.
Je peux dire mes deux
et on accepte
trucs,
tout ça. Pardon ?
Je peux dire mes deux autres trucs, du coup ?
Vas-y. Non, c'est pas vrai que c'est pas important et que ça trahit pas l'esprit. À mon avis, celui dont ça trahit l'esprit, c'est celui qui, quand il écrit sa règle, n'est pas convaincu que ça va servir l'esprit. Et qu'il n'a pas encore trouvé sa bonne règle ou qu'il fait du remplissage.
La question, c'est ok, tu mets la santé mentale, mais est-ce que tu appliques le bonus de pourcentage doublé à bout portant avec le canoncier? Est-ce que tu appliques le
multiplicateur de moins 5%? T'es pas convaincu avec cette règle là, ne la mets pas. Tu n'es pas convaincu.
C'est des règles de merde. Moi, j'applique la santé mentale, mais les autres règles, c'est pourri, pour ça que je trahis pas l'auteur.
Mais c'est pour ça que j'apprécie un jeu de rôle de 3 pages. C'est ça, un jeu de rôle avec 3 pages de règles. Parce que 3 pages de règles, les seules règles qu'il y a dedans, c'est celles qui vont apporter quelque chose de positif sur le jeu. Le reste, c'est du remplissage.
C'est mon deuxième truc. C'est justement, puisque en jeu de rôle, il n'y a pas de règles, mais il y a un système de résolution, tu systémises ce que tu veux résoluter. Les trucs que tu ne veux pas résoluter, pourquoi tu les systémiserais? Qu'est-ce qu'on en a à branler du bonus que tu as à bout portant avec un canoncier dans Cthulhu, dont le but est de te révéler à toi-même que tout ce que tu penses sur le monde est idiot, que tu n'as plus qu'à te suicider? Évidemment que tu ne joues pas.
Il y en a qui trouvent ça important.
Il y en a qui trouvent ça important.
J'ai quand même un doute qui ne va pas résoudre dans le vocabulaire français.
À une époque, mais c'était avant. Du coup, moi j'ai toujours écrit parce que comme vous, au début, j'osais pas écrire des scénars. J'avais la flemme, il y en avait plein qui étaient écrits. Je jouais à des jeux où les mecs écrivaient plutôt des bons scénars, donc je voulais pas me faire chier. Et effectivement, je me disais, putain, ouais, en fait, je m'aperçois que là, si ça n'avait pas été écrit comme ça, si j'avais juste en tête la trame du scénar, j'aurais été complètement déraillé à tel moment et ça aurait abouti à un truc qui était chiant pour tout le monde. Heureusement que le mec avait pensé à l'écrire dans son scénar. Moi, j'aurais pas été capable de faire ça. Ce n'est pas vrai d'ailleurs, mais moi, justement parce qu'on a l'habitude jeu de loi, on dit le jeu de loi, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc si je change une case, je mesure pas les conséquences. Donc on n'ose pas tripoter les jeux de rôle et on a tort. Donc au début, j'osais pas écrire de scénar, j'osais pas écrire de jeu. Puis des années plus tard, je m'y suis lancé et en fait, c'est facile. Et les jeux que j'ai écrits, que vous pouvez regarder ou auxquels vous pourrez jouer ce week-end, justement, ils sont écrits autour de ces principes-là. C'est-à-dire, oui, je veux rendre explicitement le pulp, la comédie romantique, Twilight, y compris dans leurs clichés, dans leurs caricatures, dans leurs biais, et j'y arrive. Il suffit de trouver les 5, 7, 12 éléments saillants de ce que je veux rendre, insister à mort là-dessus, le reste, c'est du remplissage, et explicitement, on dit que tout le monde s'en fout. Et pour peu que tu joues avec des gens qui sont d'accord avec le thème, on va tomber d'accord. Alors, tu as raison de dire que l'interprétation de chaque table, l'interprétation de chaque partie, parce qu'on n'est pas la même personne à chaque partie qu'on joue, va toujours légèrement vibrillonner. De même que toutes les parties de foot ne sont pas les mêmes, que toutes les parties d'échecs ne sont pas les mêmes, même si là, tout est extrêmement précis. Mais l'interprétation fondamentale ne va pas changer. Et ton mec à qui tu dis « on joue les Watchmen » et qui dit « je te joue un pirate qui cherche un trésor », il n'est pas dans le bon jeu. Le problème était plus grave que ça. Il n'était pas dans le paradigme. Après, qu'il te fasse un personnage très dérivatif de Rorschach, ou parce que lui, ce qu'il aime, c'est Dr. Manhattan, il fait aussi un personnage méga balèze qui donc est déséquilibré par rapport aux autres sans être le centre ou le moteur ou le cœur de l'histoire. Ouais, ok. Ça, c'est une question de pacte narratif et tu peux ramener le mec au centre. On va construire ensemble notre jeu. Mais oui, il est possible d'écrire des jeux dont toutes les règles saillantes doivent être jouées. Puis t'en as ajouté une ou deux, ouais, j'ai foutu un truc de poursuite en bagnole, mais on s'en fout, c'est pas le cœur du jeu. Donc oui, Actulu, bien sûr qu'il ne faut jouer que la santé mentale. Alors, si tu veux, tu peux jouer les autres, mais si tu les joues pas ou différemment, l'impact est limité. Si tu joues pas ou différemment la santé mentale, l'impact est majeur.
Thomas, si tu me permets, parce que du coup, c'est vrai qu'on est, on est plusieurs à avoir préparé. Je crois qu'il y a Julien, voilà. En fait, qui a un truc à dire depuis un bon moment.
Non, est-ce pas spécialement.
Le troisième truc est la conclusion de ça. Comme on est formaté par le jeu de loi, et comme les premiers jeux avaient des niveaux, la quantité de gens qui jouent ou qui jouent pas, qui sont absolument convaincus que le jeu de rôle, c'est un parcours initiatique où tu démarres petit newbie qui sait rien, puis après tu montes de niveau. Puis, le jour où tu as suffisamment monté de niveau, tu deviens maître de jeu, comme si c'était l'accomplissement du parcours de joueur, est absolument gigantesque. Et puis après, l'accomplissement du parcours de meneur, c'est quand tu publies des bouquins dans des bibliothèques. Pas que les gens y jouent, hein. Pas que ça intéresse quelconque, mais que tu as ton nom sur un bouquin publié.
Bah ouais, faut pas déconner, logiquement.
Et ça, c'est évidemment une connerie, parce que un des gros intérêts du jeu, j'ai une autre planche que je pourrais vous sortir, mais tout le monde s'en branle, c'est que c'est une forme d'art, enfin, c'est une forme performative, dans laquelle tout le monde est simultanément ou tour à tour auteur, acteur, réalisateur, metteur en scène et public.
Bravo !
Donc, tu brouilles complètement la frontière entre est-ce que je suis joueur, est-ce que je suis meneur, est-ce que je suis auteur. Bien sûr que tu l'es un peu. Bien sûr que le jeu de rôle intrinsèquement se prête au hacking. C'est hyper important que tu aies dit ça. Et ouais, on va tout le temps hacker la règle et on va tout le temps la faire évoluer. Et finalement, les bons systèmes de jeu, c'est ceux où tu n'as pas beaucoup besoin de les customiser. En très très peu de parties, tu vas t'apercevoir qu'en en enlevant très très peu, tu as tout et rien que ce qu'il te faut. Alors qu'il y a des systèmes de jeu où il y a beaucoup plus de remplissage, donjon en est un, vampire en est un, où 80% des systèmes ne servent à rien et ne servent pas le propos du jeu. Et donc en fait, tu vas tous les virer. Et donc on aboutit à ce que disait mon camarade Antoine Drouard. Un bon système de jeu sait se faire oublier, un mauvais système de jeu doit se faire oublier. J'en ai enfin fini.
D'ailleurs, alors, ça me rappelle un vieil article que j'ai écrit pour la cellule qui traîne au fond d'un blog où je distingue système de jeu et système de résolution. Et aujourd'hui, il y a aussi sans doute le... Donc, en fait, je reviens à la notion de règles. Il y a des règles qui vont permettre de lever des incertitudes dans le jeu. Pour moi, c'est le système de résolution. Il y a des règles qui vont te permettre de générer des propositions. C'est-à-dire que parce que tu suis la règle, tu vas enrichir ton jeu. Pour moi, ça, c'est du système de jeu.
Ce que tu appelles sacré du jeu, que tu écris souvent dans tes jeux.
Moi, c'est ce que je... Voilà. Et il y a une troisième chose, avec les jeux qui ont exploré le fait de déstructurer la forme classique du jeu de rôle, c'est-à-dire un meneur de jeu, un scénario des joueurs. Quand on n'a plus de meneur de jeu, il faut des règles qui définissent la prise de parole. Et donc, quand on regarde... la question qui est posée par ces trois prismes-là, on voit que les réponses, elles vont être différentes. Et qu'il y a des jeux où, si tu ne respectes pas ces règles itératives qui vont générer des propositions, ou si tu ne respectes pas ces règles de prise de parole, eh ben, t'es, là, pour le coup, tu n'as pas la même expérience que celle que te garantit l'auteur. Absolument. Et s'affranchir des règles de résolution, c'est un peu traditionnel dans le jeu de rôle. C'est ce qu'on fait facilement. On s'aperçoit que sur les jeux où les règles de prise de parole ou bien sur les jeux où les règles de génération de propositions sont importantes, si tu mets la merde avec ça, ça devient vite... Autant bidouiller le système de résolution, quelque part, ça prête moins à conséquences que sur les deux autres systèmes de règles.
Eugénie.
Merci.
Je me permets juste de revenir sur le terme de trahison. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des règles. Le terme de trahison, tu disais au début que quelqu'un qui a pris un engagement envers nous et qui le respecte pas et ça nous fait du mal. Et c'est pour ça qu'il me convient pas en fait pour pas mal de moments dans une partie de jeu de rôle où on pourrait parler de trahison. Ça met la faute sur celui qui trahit, alors que la faute, elle serait peut-être sur les attentes de la personne en face qui était juste pas pertinente en fait. Et on peut
pas partager ou pas explicite
ou pas dite, etc. Et on peut arriver. Enfin, il y a aussi un truc à savoir, c'est qu'est-ce que une partie de jeu de rôle peut nous promettre ou pas. Et connaître un peu les limites aussi du média et savoir qu'il ne faut pas non plus en attendre quelque chose qu'elle ne pourra pas nous donner, comme le cinéma peut le donner, ou la littérature peut le donner, ou d'autres expériences peuvent donner. Enfin, il ne faut pas forcément plaquer des expériences, etc.
Mais il peut aussi nous donner des choses que ces formes-là ne pourront pas.
D'ailleurs, moi, si je reviens encore, j'avais fait un article pour JDR Mag un peu sur ce thème-là. L'idée que le meneur de jeu, quelque part, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'il va dans une boutique de jeux de rôle, il regarde des jeux, il voit un livre avec une belle couverture qui lui évoque quelque chose. Il va l'acheter. Donc c'est un engagement aussi financier, quelque part. Ensuite, il va le lire, ça va lui prendre du temps. On va partir du principe que c'est un bouquin, on va dire traditionnellement 250 pages, voire 400. Il va lire tout l'univers, ça va lui inspirer des idées. Ou alors avant, il aura regardé le film, il saura dire « j'aimerais trop refaire ce film, ça a l'air trop bien ». Et puis... Puis il arrive avec toutes ces attentes-là et en fait, forcément, il peut être que déçu, quoi, parce que personne n'est dans sa tête. Même les gens, s'ils étaient dans sa tête, ils n'ont pas forcément les mêmes envies. Et lui, il arrive et il voudrait reproduire en fait, un film qu'il a fait dans sa tête, quoi, comme tu disais. Et c'est là où est le problème dans ce cas.
Des fois, arrivant avec un jeu qui n'est d'ailleurs pas prévu pour ça. Moi, je sais que quand j'ai acheté Feddingson en pensant que j'allais pouvoir faire du Métabaron, du jeu de Roski avec. Sauf que Feddingson... C'est du D&D dans l'espace.
Mais t'aurais dû acheter Métabaron.
Non, mais Métabaron non plus.
Oui, c'est ce que je pensais, mais je voulais que quelqu'un le dise. Mais quelque part, j'avais l'impression que quelque part, le meneur de jeu, il a aussi une espèce de côté un peu prophétique, dans le sens c'est un prophète. C'est-à-dire qu'il a vu la parole, il a imaginé un truc, il a un rêve, et il veut le partager avec des gens qui ne le partagent pas forcément. Et forcément, du coup, il y a trahison.
Une seconde. Le porteur d'une proposition de jeu, ce n'est pas forcément le meneur de jeu. C'est très souvent le meneur de jeu, mais ce n'est pas toujours le meneur de jeu. Moi, j'ai régulièrement eu des joueurs et des joueuses qui sont venus me voir en me disant « j'ai vu un truc, tu ne nous ferais pas jouer là-dedans ». Ils savaient que j'étais meneur de jeu tout le temps, au déboté, dit qu'il fallait, parce qu'en plus, j'improvisais. Donc voilà, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc voilà. Voilà. Donc la proposition de jeu qui va être trahie n'est pas forcément l'apanage du maître du jeu. Mais souvent.
Du jeu, je voulais juste faire une petite remarque. Le maître du jeu, c'est peut-être pas forcément celui qui est prophète, c'est aussi peut-être celui qui voudrait être surpris.
Ou c'est le romancier.
Moi, quand je masterise, c'est la seule chose qui m'intéresse.
À moi, les scénars que je préfère, c'est ceux où j'ai la localisation, les PNJ, leur motivation et les événements qui se produisent si les joueurs fassent rien. Et après, zizish.
Alors j'ai un petit.
C'était juste pour aller dans le même sens. Moi, ça me rappelle un peu les thématiques d'enseignement. Il y a celui qui arrive et qui veut caser son truc parce qu'il a préparé, parce qu'il a fait les études qu'il allait. Et il y a celui qui arrive pour voir comment est-ce que ce qu'il a apporté peut rentrer en adéquation avec son public. Et c'est, je pense que le meneur de jeu se retrouve un peu dans cette thématique-là aussi.
Voilà. Et du coup, est-ce qu'on peut être trahi dans cette configuration justement
d'attente de surprise ? Alors, je vais te dire quoi ? Comment ? Attention, j'ai un petit placard parce que je ronge mon frein depuis un petit peu de temps. J'en profite que j'ai le micro. Et en fait,
attends, je coupe dans l'ensemble.
Les intentions de l'auteur, du MJ, des joueuses. Et on avait parlé de contrat social tout à l'heure, dire on n'a qu'à mettre les attentes sur la table. Une fois, je joue à l'autoroute des larmes, qui est un jeu en fait avec des Indiens, de la forêt et des serial killers, pour faire simple. Et puis du coup, je liste aux personnes les différents thèmes qu'on peut aborder justement pour qu'elles me fassent leurs commandes et qu'on joue dans les thèmes qu'elles préfèrent. Et du coup, on part sur on va faire de l'enquête, du chamanisme et des tranches de vie. En réalité, dans la partie, c'était impossible de réussir à doser ces trois choses à l'équilibre. Ou alors, il aurait fallu que je me réassure tout le temps auprès des joueurs pour que. Et donc, effectivement, quand on arrivait en débriefing, ils ont dit en fait, on a joué un de ces trois trucs-là, quoi. Et jouer les trois à l'équilibre, c'était trop compliqué. Il y a presque le contrat social. C'est une histoire de coopération. Enfin, il n'y a aucune communication, aucune entente qui soit parfaite. Il n'y a aucun contrat social qui fonctionne pleinement, quoi. Il est forcément, on est forcément faillible dans sa mise en pratique. Hein. Voilà, alors là-dessus, on a parlé d'esprit, on a parlé de lettres. On peut jouer la lettre d'un jeu en trahissant complètement l'esprit. Par exemple, les jeux à traits, si tu te mets à utiliser les traits avec mauvaise foi pour accumuler de la puissance, ou au mépris de la cohérence, dans les jeux, il y a les cas aussi quand tu arrives à utiliser les règles, mais tu trouves une martingale tactique qui pète l'équilibre du jeu, quoi. En fait, aucun équilibre de jeu.
Et deuxième, et troisième, et quatrième.
Voilà.
Pas la quatrième.
Et un manuel de jeu de rôle, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il y a des personnes qui ont besoin de suivre les recettes à la lettre, en espérant qu'elles vont avoir le gâteau comme sur la photo. Et bien d'autres qui... moi, par exemple, comme je suis très en contrôle comme personne, j'ai besoin de faire ça. Et des fois, quand quelqu'un vient m'aider pour faire la cuisine, je vois, il ouvre le bouquin, il lit la recette en diagonale, et puis il me fait un truc, il n'utilise pas du tout les ingrédients que j'ai préparés, il me fait complètement autre chose. Et puis finalement, ça va quand même être bon, quoi. C'est aussi une question de feeling, toi. Est-ce que tu as besoin de... dans ton contrôle de suivre la recette à la lettre, ou est-ce qu'au contraire tu as besoin de juste la respirer et puis mettre ta sauce, quoi.
T'as besoin de l'adapter à tes ingrédients, ta recette. C'est ça la clé. C'est, tu as une recette dans laquelle tu ne peux pas tout décrire, et je pense que ça s'applique exactement au jeu de rôle aussi.
Incomplétude de carrière.
Voilà, exactement. Tu ne peux pas tout décrire.
Du coup, en cuisine, tu as la même chose. La recette est
vraiment
complète.
Mais bien sûr.
Oui, parce que tu vas avoir des œufs qui vont contenir plus ou moins d'albumine.
Exactement.
Plus ou moins gras, donc la mayonnaise, elle ne va pas prendre pareil.
Va faire des macarons sans connaître ta poudre d'amande, tiens. Et sans contrôler l'hygrométrie de ta pièce, bref.
En fait, le problème, c'est que dans ta recette, tu as les joueurs. Et ça change la donne.
Oui, en plus, c'est une recette qu'on va faire à plusieurs.
Parce que tu peux pas contrôler tout le monde. Et peut-être que toi, tu as besoin de suivre la recette jusqu'au bout de la lettre. Mais en fait, tes joueurs, ils n'ont pas la patience pour. Et en fait, la prémisse de ce scénario est hyper longue. Et ça m'est déjà malheureusement arrivé d'avoir un meneur de jeu qui voulait nous expliquer tout le scénar avec tous les Romains qui partaient dans tous les sens, avec tous les dieux et quel dieu voulait dire chaque chose, et sauf qu'on avait perdu tout le public, et le public après a fait un putsch au jeu parce que en fait ils avaient voulu s'amuser. En fait, il y a une trahison. Au début, je crois qu'on avait dit que la trahison, ça allait dans les deux sens. En fait, c'est le meneur du jeu, mais c'est aussi les joueurs.
Oui, tout à fait. Oui.
Et en fait, quand quelqu'un nous invite chez soi pour qu'on s'amuse et on passe une super bonne soirée, et que en fait, on passe 3 heures à écouter un gars parler, il y a un moment donné où naturellement la trahison peut aussi prendre l'inverse, parce que il y a l'attente du meneur du jeu, il y a l'attente aussi du joueur, et c'est justement cet équilibre dont on n'arrête pas de parler qui est essentiel.
Je voudrais faire une observation liminaire. Quand on dit le jeu de rôle, il y a toujours une ambiguïté sur de quoi on parle. On parle de l'objet jeu de rôle qu'on achète, ou on parle de l'activité jeu de rôle quand on est assis à la table et qu'on joue en bouffant de la pizza grasse. Exactement, très juste. Et aussi tout le méta-jeu qui se passe entre les parties où on refait le match et où on joue entre nous et on fait la partie. Ouais. Parce que, au fond, et là c'est un biais à moi que je vous livre pour décrypter ce que je dis, donc je ne dis pas que j'ai raison, mais moi quand je dis jeu de rôle, je parle toujours de ce qui se passe pendant les parties. Le jouage de rôle m'importe plus que le jeu pour faire des rôles, qui est un objet, qui est un support. Donc la fidélité à la règle, ce qui se passe pendant la partie m'intéresse plus que le reste. Mais en tout cas, j'ai eu une révélation, moi, ce soir, c'est que j'ai un peu décroché de la production de jeux de rôle depuis les années 2010. Et quand je tombe dessus par hasard, et je tombe notamment sur les jeux de Vivien ou les jeux de Thomas, dont j'apprécie énormément les univers, le côté mi-enfantin, mi-maniaco-dépressif, psychopathe, et je trouve ça...
Très bonne définition.
À la fois, je voudrais remercier ces deux personnes parce qu'ils nous livrent clairement une partie de leur âme. Il faut avoir quand même...
Il n'en a pas. Hein.
Ah, c'est ça.
Bah, je l'ai livré, du coup, j'ai plus rien.
Mais bon, faut être bien assis pour avoir le courage de faire ça et la poésie de le faire avec le talent qu'ils ont. Ouais. Mais en même temps, quand je lis leur système de jeu et que je me dis comment je l'applique, honnêtement, et je vous le dis en vous regardant, en louchant un peu les deux,
les yeux dans les yeux,
je m'emmerde. Et maintenant, j'ai compris pourquoi. Parce que tout ce que vous dites l'un et l'autre depuis le début, c'est que, outre que vous êtes des contrôle freaks, Vous avez découvert le jeu de rôle par des jeux pas géniaux, ou ce qui se produit pendant la partie quand tu appliques ce qu'il y a dans le bouquin que tu as acheté n'est pas l'effet que tu avais en
Alors, je te prie de croire que je ne pense pas du tout comme ça. Quand j'écris un jeu,
je ne parle pas, je parle des jeux que tu as achetés. Quand vous disiez j'essaie de faire les métabarons, j'achète un jeu qui s'appelle Métabaron, ça produit un truc qui n'est pas le feeling des métabarons. Donc du coup, quand vous vous êtes mis à écrire des jeux,
c'est que j'avais acheté Phoenix, hein, comment te dire,
vous avez écrit des jeux qui justement essayent d'induire les comportements des gens. Toi tu décrivais, j'étais enfermé dans un couloir, et toi tu essaies de restreindre. Attends, mais à ce niveau de jeu tu ne peux employer que des verbes d'état, tu ne peux pas employer des verbes d'action, faudrait t'es monté de niveau pour ça. Et je me dis, mais les mecs, pourquoi vous essayez de restreindre la créativité des gens? Laissez-les faire. Et maintenant, je comprends. C'est parce que c'est
Alors
ça.
Alors, je te promets que je ne designe pas un jeu comme ça, mais du tout. Okay, mais... Jamais.
Hey, moi, j'ai dit que j'avais progressé depuis que je me soigne.
Les jeux sont mauvais. Je ne dis pas ça du tout. Je dis, on voit dedans l'inquiétude du truc qui part dans une direction qui n'est pas Alors... le feeling que vous avez en tête. Et ça, ça m'intéresse vachement. Parce que ça veut dire donc, ça rejoint plein de trucs qu'on a dit, que tu as dit, etc., que vous avez dit tous les deux, que le game design, le système de jeu, quel que soit ce qu'on met dedans, système de résolution, de proposition, d'organisation de la partie, sans meneur, etc., ce que tu as fait dans Inflorescence, qui est un jeu, je ne sais même pas s'il est de rôle, mais qui est une expérience super intéressante et à mon avis unique aujourd'hui, je n'ai pas d'équivalent, entre le théâtre, la fanfiction, le jeu de rôle, tous les trucs, tous les loisirs un peu créatifs, improvisés, comme ça, sans réfléchir, sans préparation, je le trouve donc absolument intéressant pour ça. Dans tous ces trucs-là, on sent que votre truc, c'est... Voilà, comment je crée des mécanismes qui m'assurent que, en laissant les gens imaginer des trucs, ils ne vont pas imaginer un truc qui est à 180 degrés et qui vendange ce que moi je voulais faire. Donc, je comprends mieux pourquoi j'ai du mal à jouer à vos jeux, même si j'adore vos univers. Donc j'adore lire vos jeux, j'ai du mal à les mettre en scène comme joueur ou comme meneur. C'est pour ça en fait. Et donc, vous avez été victime du fait d'avoir commencé par des jeux mal conçus, dont les systèmes, ne sont pas au service de la promesse.
Tu veux dire qu'ils produisent des jeux dont ils peuvent pas le dire, peut-être, dont la proposition est claire.
Ah, eux, leur proposition en fait, est ultra claire.
Voilà.
Et c'est pour ça que je les aime bien, du coup. Allez, je ferme ma gueule un peu.
Mais tu peux pas y jouer.
Alors,
non, mais j'y jouerai avec plaisir ce week-end, d'accord. Tu vois.
J'ai envie de te répondre, Thomas, mais je vais éviter de le faire en essayant de sortir mes propres jeux et te dire de comment c'est différent. J'ai vu plutôt faire des choses générales et des orientations que j'ai en tête. Justement, comment, en tant qu'auteur, tu actes le fait que, de toute façon, une partie du jeu de rôle, c'est une trahison, et comment tu vas épouser ce fait. L'idée, déjà, c'est de...
De toute façon, vos jeux, je les achète.
C'est de ah oui, bah...
Oh, bah ça va, alors. Viens, Thomas, on y va.
Je me casse le cul. Allez, on rentre ramasser. La première chose, c'est d'essayer de concevoir les jeux comme des outils et non comme des machines, parce que les machines produisent des robots, tandis que les outils produisent des artisans.
Bah, c'est peut-être ça le problème du terme système. Bravo. Parce que si des règles font système, ça veut dire qu'elles forment une machine en fait en quelque sorte. Et qu'elles potentiellement, elles peuvent
en faire. Ensuite, je suis pour la réhabilitation de la clause d'indifférence. Il faut dire aux joueuses, voilà, je vous présente des règles, mais soyez souples dans l'application des règles. Et en listant des exemples, dire, il y a ce moment-là où c'est fertile par exemple, si tu donnes une table aléatoire. Je pense qu'il y a eu une école qui a cru les tables aléatoires ont été rejetées parce qu'il y a eu une école de jeu qui croyait qu'un jeu, quand il y avait des tables aléatoires, il fallait toujours les appliquer à la lettre et les suivre à la lettre. Mais en fait, une table aléatoire, tu peux l'utiliser d'un milliard de façons différentes. L'entrée te fait chier, tu passes à l'entrée suivante, ou alors tu récupères qu'un morceau de l'entrée, ou alors tu vas mixer plusieurs entrées, et ainsi de suite.
Ouais, je me souviens, un rêve de dragon, au bout d'un moment, il y avait tellement de versions différentes et incompatibles des tables de queue de dragon, de tête de dragon et machin, qu'en fait on tirait sur toutes les tables et on choisissait le résultat qui était le plus fun.
Mais t'es pas obligé de lancer le dé aussi, tu peux choisir au hasard. Donc il faut l'acter, quoi. En Freud Image, je vous propose une règle, mais trahissez-la, contournez-la, en fait. C'est un diamant qui a plein de facettes et manipulez-le, ne jouez pas à la règle, jouez avec la règle.
Attention, parce que ça crée du vertige, ce que tu dis là. C'est, je vous donne un cadre et je vous demande de l'exploser.
Mais ça, c'est ce qui s'appelle la profondeur. Si tu veux créer des gens en profondeur, c'est ce qu'il faut faire.
Ouais, alors, mais ça
nécessite... Alors, attendez.
Ne place pas du point de vue du jeu pratique. Pendant la pratique, les gens peuvent être paumés, tétanisés. Et voilà.
Après, tu peux Valentin. En prenant juste du coup la règle par une facette. Ouais. Après, tu
l'ouvres, quoi. Alors, le truc, c'est que... là, c'est moi qui parle, hein, c'est pas les entretiens.
T'as une opinion maintenant.
Je suis un liste, là. C'est la folie. Alors,
Donc je vais prendre mon expérience perso. Moi, je suis un joueur, je suis un anti-control freaks. C'est-à-dire, quand j'arrive à la table de jeu, personnellement, je ne veux pas avoir à réfléchir. Quoi. Je suis consommateur pur. Je suis un pur produit du capitalisme. C'est-à-dire, le jeu, c'est vraiment un outil dans lequel je dois mettre le moins d'efforts possible pour avoir le plus de feedback possible. Voilà, c'est ça, exactement. Je peux jouer autrement, mais c'est une façon qui, moi, me convient.
C'est quoi autrement, mais on joue au jeu de rôle ?
Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que j'ai quand même une sensation de malaise à devoir jouer avec la règle. Moi, je veux jouer la règle. Simplement, sans avoir à...
Mais après, tu peux déjà proposer une règle qui fonctionne avec juste l'usage standard,
alors voilà.
Mais qui soit... qui a une capacité à s'épanouir dans d'autres usages.
Ouais, j'ai quand même un truc à dire à propos de la règle et du fait de créer des règles avec un but précis, donc une proposition claire comme on parlait tout à l'heure. Il y a un grand intérêt qui va au-delà du désir de contrôler un joueur rétif, parce qu'il y a de ça, il y a le contrôle du joueur rétif dont tu parlais, etc. Il y a l'ouverture d'une situation et la mise à l'esprit d'une possibilité grâce à l'existence d'une règle. Puisque cette règle existe, tu penses à avoir ce comportement-là. Moi, ce mode de pensée, je l'ai eu quand j'ai lu Apocalypse World, en fait, qui, quand j'ai lu le maître du jeu, a un certain nombre d'actions limitées qu'il peut prendre à certains moments.
Meneur de jeu.
Oui,
meneur.
Oui, enfin, oui, mais bon.
Ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que personne n'est maître de queue.
Oui, mais je suis, t'inquiète pas, maître de cérémonie en plus dans ce jeu-là, on est absolument d'accord. C'est un joueur comme les autres qui a des responsabilités précises dans ce jeu-là, d'accord ? Au début, quand j'ai lu le jeu la première fois, j'ai vu des limitations de ma possibilité de MJ. Je me suis dit, mais putain, comment je vais pouvoir être créatif dans un jeu qui me limite mon nombre d'actions ? Sauf que, à la pratique, à la réflexion, de ces actions, j'en ai, je sais pas, on va dire une douzaine. Quand je suis MJ, ben, j'ai pas 12 actions en tête. Quand je suis MJ, j'ai mes routines, j'ai mes habitudes, j'ai ma paresse qui fait que je vais peut-être en exploiter 3, 4, 5, 6, si je suis en forme. Face à un jeu comme ça, qui dans ses règles me dit « tu dois faire ça, 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 et tu dois choisir dans la liste », et bien du coup, j'ai 12 possibilités au lieu de 6 que je dois envisager en permanence. Et ça va ouvrir mes possibilités. Voilà.
Comme disait Audrey, ton plaisir, c'est d'être surpris.
Ah bah oui, d'abord complètement, ça, on se rejoint complètement de ce point de vue-là. Moi, je suis un MJ spectateur. D'ailleurs, joue pour voir ce qui va se passer.
C'est le principe de base de la créativité que quand on a des contraintes, c'est là où nous réussissons à être le plus créatif possible.
Ah bah, on sait tous que la contrainte est féconde pour la créativité. Le fait de s'imposer les trois unités de la tragédie classique, ouais, c'est vachement fécond. Le fait de s'imposer un scénario systématiquement répété comme Is No Good ou Mission Impossible ou Goldorak, où tous les épisodes sont copiés-collés, ou James Bond, où tous les épisodes sont copiés-collés, mais avec la forme de la péripétie qui change, ouais, c'est vachement créatif.
Mais c'est justement, c'est pour ça que, pour moi, peut-être qu'une des choses qu'on est en train de dire depuis le début, c'est qu'au lieu de parler de règles, on devrait parler de contraintes du jeu.
Absolument, parce
ouais,
que...
Ou de points de contrôle, ou de je sais pas quoi. Mais c'est des figures imposées, ouais, mais c'est pas des règles.
Et ce ne sont pas... Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que ce ne sont pas des règles, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais ces points de contrainte, ces points de contrôle, ils ne sont pas que mécaniques non plus. Hein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et du coup, une règle bien faite, ou un système bien fait, même en apparence contraignant pour ramener les pauvres joueurs égarés dans l'escarcelle de l'auteur qui veut les faire jouer de cette manière. En fait, il veut leur proposer quelque chose. On peut voir ça comme étant vraiment un enfermement, mais on peut aussi voir ça comme étant une libération parce qu'en suivant ce modèle-là, je vais pouvoir explorer un domaine que je n'aurais pas pensé à explorer. Je vais pouvoir étendre mes possibilités parce que, bah, comme tu disais, Valentin, je suis la règle. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ça. Putain, j'y avais pas pensé.
Et tu as des joueurs dont le mode d'engagement est consumériste. Je veux m'asseoir à une table et sit back and enjoy. Donc faites-moi un truc fun où j'ai pas d'investissement personnel.
Quand je dis les joueurs, c'est tout le monde à la table. Hein.
Oui, bien sûr.
Pas meilleur de jeu.
Les participants.
Participants, exact.
Tu as aussi des gens qui vont vouloir hacker à la même table, la même partie. Voilà. Et tout ça est légitime.
Le goudron et les plumes.
Légitime. Mais pour rejoindre tout ce qu'on disait sur la métaphore sur la cuisine qui est vachement intéressante, qui est vachement juste. C'est un peu pareil. Si t'es pas sale partout, c'est que tu l'as mal fait. La guerre est un art simple et tout d'exécution, disait Napoléon. Donc il y a eu tout le débat à la con sur est-ce que le jeu de rôle est un art. On s'en fout, c'est une forme d'expression. Parce que c'est un art, c'est de la philosophie, c'est pas mon sujet. Mais
un autre sujet. Mais en tout cas, c'est tout d'exécution. Ce qui me ramène à l'histoire de la partie. Donc ouais, tu as des ingrédients qui sont les intentions de chacun, la compréhension de chacun. Plus tu vas être dans la clarté et la réciprocité des uns et des autres, plus il y a des chances qu'on arrive à faire une situation finale mutuellement acceptable, mutuellement profitable, quel que soit le mode d'engagement des uns et des autres, et même si tu ne connais pas le mode d'engagement des uns et des autres. Mmh. Et donc, moi, j'ai toujours fait des jeux qui essayent de créer une proposition claire d'en tirer toutes les conséquences, justement en évitant d'être contraignant, mais en disant on est bien d'accord que si on fait un jeu de super-héros, les grands, et c'est pas très divisible, il y a 1000 études sociologiques là-dessus, les grands fondamentaux du super-héros, c'est ça. Donc on est bien d'accord que l'attente, c'est ça. Bah, ce jeu-là, comme il ne va pas tout traiter, parce que c'est par définition immense, nous, on a fait un jeu qui se focalise là-dessus. Et on l'explicite. Et derrière, si vous avez envie de jouer à ça, venez. Si vous n'avez pas envie de jouer à ça, allez jouer à un autre, il y en a plein. Et vous avez le droit d'en aimer plusieurs, le mien et un autre. Je m'en fous. C'est pas un concours, c'est un jeu de rôle.
Je voulais juste ajouter une dernière chose sur justement le game design qui prête le flanc en fait, à la trahison. Moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de réhabiliter l'évocation, en fait, plutôt que la prescription. Par exemple, dans Marche-Branche, le bestiaire, chaque monstre, il est décrit en une ligne. Et il n'y a pas de stats, il n'y a pas toute l'écologie du monstre, tout est décrit en une ligne. Par exemple, il y a aussi une table sur le temps qu'il fait, sur les climats. Et par exemple, il y a un climat, c'est le jour du pardon. C'est juste précisé, le jour du pardon, chacun doit pardonner une chose à quelqu'un d'autre. Et en fait, les musiques, quand ils tirent ça, il est obligé d'interpréter, ouais. Et puis les joueurs vont lui poser des questions. Alors attends, ça veut dire quoi? C'est une fête, c'est une tradition, tout le monde pardonne? Est-ce que les gens pardonnent pour de bon, ou est-ce que c'est hypocrite, ou est-ce que c'est en fait un climat magique, c'est-à-dire qu'en fait, t'es magiquement forcé à vraiment pardonner? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que t'as toujours ton désir de vengeance, mais t'es bloqué magiquement, qui fait que tu as la vengeance, tu peux plus la perpétrer? Est-ce que tu peux tricher en pardonnant un truc mineur pour garder ta grosse vengeance, ainsi de suite? Et donc du coup, à partir d'une ligne, tu peux générer une situation riche déjà par le jeu de questions-réponses entre MJ et joueuse, où les joueuses vont essayer de voir comment elles peuvent gérer ces situations. Les MJ va voir comment il peut proposer des libertés, des contraintes.
Le MJ qui va répondre, je sais pas, t'en penses quoi toi?
Oui, par raison, ça c'est une façon de voir.
C'est pour ça que j'achète.
Voir une chose.
J'ai jusqu'à quelle heure pour choisir le truc que je pardonne?
23h59.
Alors moi, je voudrais revenir un petit peu au thème. Comment est-ce que on fait pour générer de la surprise, du twist, si on ne trahit pas? Moi, je pense que on s'est mis d'accord sur des codes, et si on veut surprendre sa table, si on veut générer un petit peu de peps, eh bien, souvent en tant que meneur de jeu, je vais essayer de convaincre mes joueurs qu'il y a des rythmes ou des choses qui sont établies, pour révéler à la fin qu'en fait l'illusion de contrat que j'avais passé avec eux, il y a un petit accroc dedans, et finalement ça se passe pas comme prévu. Est-ce que si on respecte le contrat à la lettre, est-ce qu'on n'arrive pas nécessairement à quelque chose de stéréotypé, d'attendu et de chiant?
Alors vous êtes dans une auberge, un mec vous dit d'aller quelque part chercher un truc, et puis quand vous revenez à la fin, il vous trahit, il veut pas vous donner, puis il a envoyé des assassins pour vous tuer.
Bravo, vous venez de jouer à Shadowrun.
Ouais, entre autres. Mais ça rejoint exactement ce que avec ma métaphore des lits sexuels de tout à l'heure. C'est bien sûr qu'il faut surprendre les gens. Mais si à la fin ils disent putain, c'est pas ça que je voulais jouer, t'as merdé.
Moi, ça m'est arrivé exactement.
Ah putain, c'est cool ça. Ah putain, je m'y attendais pas. Tu vois, en mode psychose ou une nuit en enfer, c'est pas le film que je m'attendais à voir. C'est génial.
Moi, j'ai une autre réponse par l'interprétation. Mm-hmm. Voilà. Dernière partie de Sphinx, masterisée par Julien. On était deux avec Strat et moi, et on s'est mis à jouer dans une autre langue. Et Julien était en train de s'emmerder à côté, et il disait c'est sympa, je me suis fait hacker ma partie. Ils jouent tous les deux, ils n'ont plus besoin de moi, et je suis sûre qu'il était.
Est-ce que le jeu de rôle, c'est le bon média pour la surprise?
Ah oui,
c'est le média de l'émergence. Donc,
à Donjon première édition, tu pouvais créer tout ton donjon de façon aléatoire.
Ah, surprise comme dans un film. Des deux aussi, il y avait les teintes de génération. De... Moi, j'aurais revenir sur la question de la règle et sur ce que avait dit Zana. Anna. Il y avait quelque chose autour de est-ce que c'est pas la règle? Alors, dans la mesure où j'ai l'impression qu'il y a quand même une promesse implicite du jeu de rôle. Je ne sais pas si on me rejoindra là-dessus, mais pour moi, il y a une promesse implicite du jeu de rôle qui est une promesse de liberté. En attendant, liberté. Et est-ce que la règle qui devient enfermante...
Je vais pourrir votre langage.
Est-ce que, Est-ce que la règle qui devient enfermante n'est pas justement une règle qui trahit cette promesse? Et est-ce qu'il ne faut pas voir, là, c'est aussi une réflexion qui venait là-dessus, c'est est-ce qu'il ne faut pas voir la règle comme une proposition? Et le problème de toute proposition, c'est qu'elle est enfermante pour celui qui est au-delà et elle est inspirante pour celui qui est en dessous. En termes de, en termes de parcours dans une direction, si on dit bah, tu peux faire ça ou ça, il y a quelqu'un qui ne savait pas qu'il pouvait faire quelque chose pour qui d'un seul coup c'est inspirant, et pour quelqu'un qui a déjà fait les deux, il dit ouais, non, mais en fait c'est enfermant pour moi. Est-ce que justement il n'y a pas ce problème d'ajustement entre cette règle comme proposition qui est tour à tour selon notre public, donc enfermante ou inspirante ?
D'où la renégociation permanente, d'ailleurs.
C'est intéressant parce que ça me fait penser au livre dont vous êtes le blaireau, où certains te proposent des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé, et d'autres ne te proposent pas des trucs qui semblent intelligents.
Je reviens juste sur la surprise. On peut être surpris, on peut... Enfin, je reviens toujours sur mon truc des attentes, mais c'est un peu, il y a des univers de jeux de rôle qu'on peut pas jouer parce qu'ils sont trop fournis, trop fouillés, trop précis, trop blindés, et on n'a pas la place nous pour jouer dedans. Et les attentes, c'est un peu pareil. Enfin, faut qu'on laisse du vide dedans pour permettre à quelque chose d'émerger, quelque chose qui vienne des autres, quelque chose qui vienne du jeu, quelque chose qui vienne parfois de nous-mêmes, hein. et qui s'éloigne de ce qu'on avait dans la tête avant de venir, quoi. Et pour moi, c'est encore une responsabilité du joueur de ne pas arriver avec un bloc d'attente qui soit trop trop resserré,
apprendre
trop
fort, laisser.
Trop dense pour pouvoir encore s'amuser, quoi, et pas le vivre comme une trahison.
Denis parlait de jouer en programme qui peut être problématique.
Ça rejoint ce qu'on disait sur liberté compensée par responsabilité. On peut faire tout, on peut tout faire, on peut pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on choisit de faire ensemble, tous?
Est-ce que je ne peux pas, dans une partie de jeu de rôle, choisir d'abolir une partie de ma liberté en me soumettant à une règle et à un jeu pour explorer ce que l'auteur, le MJ, la table veut explorer ce jour-là aussi?
Si j'en crois messieurs Rousseau et Hobbes, c'est la définition du contrat social. Que tu
absolument.
Quel bout de ma liberté illimitée j'aliène, parce que sinon, ça fout la merde avec la liberté des autres et du coup, collectivement, on est moins fort.
J'ai envie de faire un petit...
Un mot de conclusion.
Ouais, non, pas un petit mot de conclusion, un petit mot théorique.
Parce qu'on a la dalle, c'est pour ça.
Ouais, ça va attaquer là. Non, parce que mais ça rejoint vachement ce que vous avez dit. Alors, je sais pas si vous connaissez un petit peu la théorie des systèmes. Donc, on parle souvent des systèmes de jeu, des systèmes. Donc, il y a une vision très large du système. C'est-à-dire, on a le bouquin, les règles, les gens qui sont autour de la table, le matériel, le coca, la température. Tout ça, c'est tous les éléments qui.
Les fleurs planes, voilà, les figurines.
Tout ce que tu veux. Et tout ça, ça rentre en interaction et ça produit l'instant, quoi. Donc, la partie ou ce que vous voulez, quoi. Et en fait, il y a une autre façon de voir les systèmes, c'est de les voir en creux. Et on parle de contraintes créatives, notamment, en fait, si vous imaginez... En fait, on ne peut même pas imaginer une absence de contraintes. On parle de liberté, genre de truc. L'absence de contraintes, c'est pas, on ne peut pas le penser, on ne peut pas juste le concevoir. Ce serait juste le vide, le voir. Ça n'a pas de sens. Donc la liberté, elle peut s'exprimer que dans un espace de contraintes. En fait, le système, on peut penser ça en négatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est... contraint, tout simplement, quoi. Et quand vous pouvez déconstruire un système de jeu, enfin, formellement, j'ai envie de dire, en juste vous vous demandant, mais qu'est-ce qui reste à faire, quoi? Qu'est-ce qui reste en creux, quoi? Et en fait, le contrat social, c'est aussi ça. C'est pas les problèmes des attentes, c'est qu'elles définissent pas en creux. Elles définissent en positif. Et je pense que on aurait beaucoup plus à gagner en termes de créativité à définir tout en creux, c'est-à-dire à juste se dire où est-ce qu'on va pas, quoi. Ouais. Ouais. Donc de toute façon...
Non pas qu'est-ce déjà, que tu attends, mais qu'est-ce que tu exclus.
Et dans un mm-hmm. système global, il y a la gravité. La gravité, ok, vous pouvez pas faire plein de choses, en fait, à cause de la gravité. Bon, ça, c'est une contrainte, en fait. C'est pas une possibilité. Et la liberté s'exprime dans un espace de contraintes. Je pense qu'il vaut mieux réfléchir à l'intégrité des contraintes mises ensemble, c'est-à-dire les attentes des uns et des autres, les réfléchir en tant que contraintes et pas en tant qu'obligation. Et quand tu parles du fait de, par exemple, quand tu as un bouquin, tu me dis « je veux faire du super-héros, du Marvel », ça, c'est une attente positive. Moi, je me demande, en fait, et c'est très compliqué de me dire « mais qu'est-ce que ça m'empêche de faire ?» Je pense que ça, c'est beaucoup plus fécond. Et après, on peut respecter à la lettre... Comment ?
On joue pas des putains de pirates.
Et voilà, on joue pas des putains de pirates. Oui, mais le problème, c'est ces attentes positives, en fait. Et je pense que quand moi, par contre, on me donne un espace de contraintes, j'ai toute liberté, en fait. je suis là et bah, ça, en fait, c'est un énorme espace qui m'est offert dans lequel je peux faire énormément de choses.
Tu sais exactement quel citron la vie t'a donné, donc tu vas te démerder pour faire la limonade que tu veux.
Exactement, voilà. Par exemple, j'ai ce citron, j'ai cette boisson, etc. Je fais le mélange que je veux et là, j'ai toute liberté parce que je peux faire tous les mélanges que je veux.
T'as juste pas le droit de tuer tes clients, quoi.
Alors voilà, il y a plein de contraintes comme ça.
Je peux juste poser une question parce que là, elle va être très con, hein, je pense, de ma part, mais du coup, un système qui aurait moins de contraintes. Et ben, du coup, il te laisse plus de liberté, en fait. C'est ça que je vois comme limite, comme conception, non, comme en fait, ça. Parce que tu peux faire les mêmes choses, mais d'autres en plus.
Il ne faut pas réfléchir à la liberté en termes d'absence de contraintes. C'est une erreur, en fait.
Oui, mais imaginons, moins de contraintes. Je n'ai pas dit absence de contraintes.
Il te définit, en fait, avec moins de contraintes, tu définis moins de liberté.
Bah, tu as plus d'espace.
Faut pas. Non, attends.
C'est pour ça que je disais que c'était une question plus que...
C'est moins clairement balisé.
Oui. C'est ce que je veux dire.
C'est
oui.
Pas forcément qu'il est moins vaste, c'est qu'il est moins clairement balisé. Et
oui, oui, pareil.
Je reprends ma notion de vertige de tout à l'heure. Parfois, c'est vertigineux. Et moi, typiquement, ben, le jeu que je vais faire jouer dimanche après-midi, c'est Conte de Fées. C'est un jeu où tu es une créature féerique dans le monde féerique. Et donc, ce monde, il est régi par l'imaginaire. Donc, ça veut dire que c'est un monde où tu peux faire se produire tout ce que tu veux qui est cohérent avec le concept de ton personnage. Et à l'inverse, pour reprendre ta notion de creux, si quelque chose se produit, c'est que quelqu'un l'a voulu. Donc si tu tombes, c'est que quelqu'un a voulu qu'il y ait de la gravité. C'est un truc un peu dessin animé où les mecs ne tombent quand ils courent dans le vide que quand ils s'aperçoivent qu'ils sont dans le vide. Ce genre de truc. J'ai eu des joueurs, pourtant aguerris à tout ce que tu veux, qui avaient joué à Donjon, Cthulhu, Paranoia pendant des années, qui étaient incapables de jouer à ça quand je leur disais qu'est-ce que tu veux jouer comme perso. C'était vertigineux. Ils étaient tétanisés.
Moi j'appelle ça des joueurs institutionnalisés en fait.
Parce que je veux pas apporter de jugement de valeur à nouveau.
Non, mais c'est une blague.
Le drôle, c'est qu'il n'y a pas de limitation au mode d'engagement dedans. Et même, comme tu le disais, les gens qui veulent jouer pour gagner, ils peuvent même jouer au jeu de rôle.
Mais tu peux aussi l'interpréter.
Alors que si tu veux jouer pour pas gagner, tu peux pas jouer au jeu de loi.
Tu peux aussi l'interpréter comme du droit, en fait. Pardon, moi j'ai un background de Sciences Po, donc ben là, parfois il sort.
Mais très bien.
Alors, je ne sais plus lequel est positif ou négatif, mais imaginons qu'on est dans un droit latin. En fait, on part du principe que être en sécurité et être libre, c'est on crée plein de normes et on interdit ce qu'il ne faut pas faire. Donc, quelque part, c'est la façon de...
Ça, c'est le système de donjon. Voilà la liste exhaustive des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Un magicien n'utilise pas d'épée. Un homme ne fait pas de magie.
Après, tu as le système à l'anglo-saxon, qui est, en fait, tout ce qui n'est pas dans le texte, et vous avez le droit de le faire. C'est pas dedans le texte.
Même hippopotame à l'école, c'est pas dans le texte.
Voilà. Donc en fait, ce qui est, je crois que un des problèmes et une des choses qui sont notamment vertigineuses, c'est qu'on change de système. C'est que tu obliges la personne à changer de paradigme et à se mettre dans un état d'âme, dans un univers où en fait c'est soit trop contraignant parce que si moi on m'interdit, franchement, moi j'ai habité aux US, Angleterre et je suis arrivée en France, j'ai eu du mal. Hein. On m'interdit beaucoup de choses. Bon, bref, ou l'inverse. Tiens, je peux tout faire, merde, mais si je fais ça, quelles sont les conséquences? Et en fait, on se heurte un peu à ça aussi dans un jeu de rôle, parce qu'on veut être libre, on veut aller dans tous les sens, mais bon, les Grecs, ils ne savaient pas qui étaient les Race of Youth, dont on a eu une conversation ce matin avec Thomas Labouré, cette fois-ci, pas l'autre Thomas, et voilà, il y a des limites qu'il faut prendre en compte parce que sinon on tue tout le jeu et on détruit la liberté des autres. Et c'est ça, je crois, le principe du contrat social, c'est d'être respectueux vers l'autre, donc pour pouvoir jouir tous de la même liberté.
Moi, la question qui me vient, c'est oh la vache, mais il nous faut 2-3 heures de discussion avant de lancer la partie, histoire d'être sûr qu'on a communiqué nos attentes, qu'on s'est entendu sur le contrat social et compagnie.
Sachant que ça va marcher pendant la première heure de la partie et qu'après, comme tout le monde aura bougé de position, il faudra le renégocier.
En fait, j'ai juste un mot pour répondre à ça, c'est lâcher prise, quoi. Il y a un moment, lâche prise, quoi. Du coup, effectivement, on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur tout, donc il faut accepter que ça dérape dans une direction imprévue.
Et c'est là que la notion de Valentin est vachement intéressante, parce qu'en définissant ce que tu ne veux pas explorer, quelles sont tes limites, tu vas pouvoir explorer tout le reste.
Mais bon, quand tu connais tes limites, c'est un autre problème.
C'est pas, ouais, non, mais déjà. Et en plus, c'est pas que les limites non plus de je veux pas qu'on parle de pédophilie. On a aussi dit plein de trucs sur.
Non, mais bien sûr, évidemment. Non, mais quand je parle de limites, je parle de limites personnelles. Hein, je parle pas de.
Pour répondre comme d'habitude à Bouclier qui met les pieds dans le plat et qui dit des trucs de bon sens pragmatique, oubliez pas qu'on a tous joué au jeu de rôle quand on avait 5 ans, quand on disait on dirait que tu serais un cow-boy et que je serais un indien, et qu'il n'y avait pas ces problèmes-là. Même avec des mecs qu'on rencontrait dans le bac à sable pour la première fois, ça se passait bien. Ça se passait bien parce que les règles étaient implicites, et quand ça clashait, c'est parce qu'on avait un problème de règles. De règles sociales, de contrat social, de quelle est la forme de droit qu'on applique. C'est tout.
Tu joues en fait, tu peux jouer. Il y a le jeu sans cohérence en fait. Tu refais la scène. Ouais, ok, je suis mort, c'est pas grave, je reviens quoi. Donc,
d'interprétation tout à l'heure. Moi, on connaît tous, mais j'ai redécouvert que des gamins de 5 ans dans les campings qui parlent pas la même langue. Hein. Un petit hollandais, un petit anglais, un petit français, ils se courent après, ils jouent au cowboy pareil. Hein. Ils parlent pas la même langue, ils jouent au cowboy quand même. Les mecs, ils sont bêtes quoi. Ils parlent pas la même langue.
Ouais, je l'ai fait.
Il y a des jeux de rôle qui explorent le fait de. Notamment dédicace à Stevie avec son jeu préféré Signs en ce moment, où tu vas jouer à créer un langage parce que tu n'en as pas et tu n'as pas le droit de parler pendant la partie. Tu es moi, pardon, c'est un langage des signes en plus, t'as raison, j'avais oublié ça.
À cette définition de la liberté, je vais essayer de simplifier un petit peu ce que tu disais. Imaginons, en reprenant la métaphore culinaire...
Attends, est-ce que je peux juste faire une précision parce que il n'y a pas de plus ou moins de liberté quoi, dans cette définition-là. Il n'y a pas plus ou moins de liberté. C'est aussi un avantage de cette définition-là. Ça paraît bizarre, ça paraît contre-intuitif. Mais c'est juste un espace de liberté. Il n'y a pas plus ou moins de liberté. C'est un espace défini.
L'espace n'est pas défini.
Non, mais l'espace est plus ou moins large.
Non, il est différent.
Il n'est pas
c'est,
défini,
c'est, de toute façon, ta liberté est forcément infinie. C'est
voilà, exactement. Le truc, sauf cet espace-là. Quoi. Mm-hmm. Et, en fait, oui. C'est juste, et le truc, c'est que l'espace que tu vas définir en fait, va contraindre tout le reste. Mm-hmm. Et donc, définir un nouvel espace de liberté. T'as pas plus ou moins de liberté, t'as toujours autant de liberté.
Je crois que j'ai mis le doigt sur là où ça t'a imbusté pour moi. En fait, la liberté, elle est certes, elle est absolue, mais le problème, il est juste d'avoir une idée. Il est d'avoir là. Il faut que ça pète. Et pour que ça pète, il faut la contrainte. Donc, zéro contrainte, c'est une infinité de liberté quasiment dans tous les cas. Dans un mouchoir de poche, t'as un infini, c'est pas un problème. Mais en fait, pour que ça clash, il faut que tu aies un problème à résoudre, il faut que tu aies une contrainte en fait. C'est pour ça que les contraintes elles sont trop, ça t'étouffe parce que tu trouves plus de solution. Rien.
Un peu
t'as rien sur quoi rebondir en fait.
Ça se modélise bien ce qu'il a dit le monsieur Valentin.
Mais est-ce qu'il y a pas, enfin, il y a une première contrainte, même si on retrouve effectivement la question des enfants et des cow-boys, mais est-ce qu'il y a pas une première contrainte qui est le langage? Est-ce qu'on n'a pas déjà besoin de se mettre dans ce jeu de contraintes-là et avec le poids du langage, que ce soit la langue ou le langage,
c'est un jeu verbal.
et pas déjà l'espace des possibles, il n'est pas là-dedans en fait.
Attention, c'est un jeu de la communication, c'est un jeu verbal. Alors ouais, après tu peux jouer dans plusieurs langues, tu peux jouer avec un langage limité. Il y a des jeux qui jouent là-dessus. Il y a un burst du camarade Ino qui s'appelle, je sais plus comment, le truc où tu es dans un Paris souterrain où tous les joueurs se font couper la langue au début. Notre tombeau. Donc déjà, tu joues, tes persos peuvent pas se parler. Donc ça limite vachement ce que les joueurs peuvent se dire. Il y a Og, ce jeu préhistorique où de toute façon tous les personnages ont 20 mots de vocabulaire. Il y a plein de jeux qui limitent le langage justement pour dire ok, mais puisque l'oralité est au cœur du jeu de rôle, comment tu te démerdes? On sait tous que l'oralité, c'est pas que les mots, c'est les mimiques, c'est le mime, c'est tout ça. Comment tu communiques? Ce qui est une question aussi sur le jeu de rôle virtuel, quand t'es plus à la même table que les gens, tous ces trucs là comment tu les compenses?
C'est quoi du coup pour vous les jeux de rôle informatiques? Pour simplifier, c'est des jeux de rôle ou c'en est pas? Parce que pour moi clairement c'en est pas un.
Merci Audrey.
World of Warcraft.
Bah voilà, tous ces trucs-là. Quoi. Trucs où le langage il est hyper contraint parce que toutes les réponses que tu peux avoir du tavernier que tu vas aller voir, en fait, c'est un système expert, c'est codé en avance. Et il y a peut-être 60 réponses qu'il peut faire, le gars, mais tu peux en explorer que 60. Non. Donc pour moi, c'est pas du jeu de rôle.
Si on applique le théorème de Kyra.
Pardon ? Non, je parle pas de multijoueur.
Même en multijoueur, tu n'as pas que des joueurs, tu vas tomber aussi sur des robots.
Par exemple.
Si on applique le théorème de Kyra, puisqu'il y a des choses qui sont complètes, ça n'est pas un jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est l'incomplétude. Et à tel point qu'il le disait comme ça, il disait, dans un jeu de rôle, il n'y a pas de pixels que tu ne peux pas cliquer.
Bah, c'est une question où vraiment je vous adresse, parce que pour moi, ce n'est pas évident.
Ouais, mais dans ma...
Ouais.
On bouffe jamais.
Non, je te laisse la parole, ça fait plus de temps. Tu attends.
Ah bon. Vas-y, parce que moi j'ai l'habitude de couper les gens. Ce soir, je me fais violence, je vous laisse parler, profitez-en.
Je suis impressionnée. Alors, en fait, moi j'aime bien cette définition que vous avez un peu tous, que le jeu de rôle, en fait, c'est ce qu'on a toujours joué, en fait. C'est ce qu'on jouait quand on était à la garderie ou à l'école, ou voire dans un jardin public, et que les deux gamins connaissent une référence commune, donc une idée. Et l'exécute. Après, tout est infini. Moi, je me suis retrouvée dans une garderie où on avait une vingtaine de langues. La plupart des gamins ne parlaient pas la même langue. J'étais au Canada. Voilà. Moi, je parlais espagnol. Je ne parlais absolument pas français tout en étant à Montréal. On avait des Coréens, je crois, Japonais, etc., qui comprenaient absolument rien de ce qu'ils disaient. Mais on avait tous vu les Ghostbusters. Ouh ! Résultat, on voulait tous jouer aux Ghostbusters. On faisait le geste, on n'avait pas besoin d'un vocabulaire.
J'ai le jeu de rôle dans ce donc, placard-là,
je suis désolée, pour moi, le jeu de rôle, il peut pas être le concept par ordinateur. J'ai un problème avec aussi, parce que il élimine l'infini, il élimine la possibilité d'utiliser son imagination et d'aller au-delà.
Il élimine l'humain.
Mais du moment qu'il a l'interaction, c'est ça. Mais c'est l'interaction,
mais c'est
exactement.
C'est pas la même interaction homme que quand tu joues avec tes potes, ou même que quand tu joues en convention avec des gens qui ont choisi de jouer à des jeux. C'est des mecs qui sont venus tous dans un mode d'engagement, comme on disait, consumériste.
Oui, mais pour moi, il faut qu'il y ait un échange. Donc, bon, juste pour finir l'idée, en fait, pour moi, la base, c'est qu'il faut avoir une interaction qui est une forme de communication, peu importe qu'elle soit orale, par geste, par symbole, et effectivement, pour moi, le scénar, en fait, c'est l'idée partagée qu'on n'avait peut-être pas si on n'avait pas quelqu'un qui te guide dans le jeu. C'est voilà. Et après, le fait que tu aies des contraintes, ça te permet d'explorer des choses que tu n'aurais pas fait dans la vraie vie, parce que tu ne savais pas.
Alors, de quoi vous voulez que je vous parle? Est-ce que vous voulez que je vous parle des jeux de rôle sur ordinateur, ou est-ce que vous voulez que je vous parle des choix? C'est un peu les choix. Alors, si on revient sur les choix, je vais essayer de donner un exemple simple. On vous demande qu'est-ce que tu veux manger.
Des anchois.
Tu peux répondre, voilà, des anchois ou du couscous. Et donc, celui qui fait à manger va avoir le choix entre les anchois et le couscous, si c'est ce qu'il faudra qu'il prépare. Ou tu peux lui dire, bah, écoute, moi, j'ai pas envie de manger de la mousse au chocolat. Et donc, concrètement, il peut faire tout ce qu'il veut, sauf de la mousse au chocolat. Et ça nous pose, donc, effectivement, il définit en creux et quelque part... ça réduit peut-être un peu moins les choix. La question que ça pose, est-ce que moi je fais un métier où je pose souvent des questions aux gens, et je leur demande parfois de... Non, pas. Je recrute pour l'armée de terre. Donc je
fais boire les gens dans les tavernes,
voilà,
les embarquent
et
dans
après,
le bateau.
Je les fais signer. C'est pour ça que toutes mes parties de jeu de rôle commencent dans une auberge. Non, mais les réponses que je supporte pas, c'est celles qui ne me permettent pas de comprendre ce qui motive les gens. C'est-à-dire, soit j'aime tout, soit j'aime rien. Dans les deux cas...
Qu'est-ce que tu veux, chérie, comme tu veux.
Voilà. Qu'est-ce que tu veux bouffer ce soir, chérie, comme tu veux, ça c'est l'enfer.
C'est exactement ce que j'appelle l'espace des contraintes, en fait. Quand tu dis tout ou rien, t'as défini aucun espace des contraintes.
Voilà. Mais si on te demande qu'est-ce que tu veux manger et que tu réponds « moi, j'ai pas envie de manger du chocolat », eh ben, t'es pas plus la personne qui t'a posé la question.
L'espace des contraintes est plus ou moins adapté, en fait, à ton ce que tu veux faire, en fait. Attends, si ton truc, c'est les intoxications alimentaires, si la question, c'est qu'est-ce que tu veux manger, le mec te dit tout sauf de la mousse au chocolat parce que je suis allergique à la mousse au chocolat, en fait, c'est très fonctionnel. C'est tout. Donc, en fait, l'espace des contraintes est à contextualiser, quoi. C'est-à-dire,
oui,
ça dépend.
Si dans ton frigo, tu as une mousse au chocolat et un yaourt à la vanille.
Voilà,
et
ben en fait, c'est super important, quoi.
Ouais, c'est
et ça marche,
point,
en fait.
La discussion de tout
c'est,
à
c'est
l'heure.
Le contexte est très, très, très. Il est même crucial et il préexiste à l'espace des contraintes.
Oui, mais le
contraire. La question tout à l'heure sur infini versus illimité versus incalculable, voilà. Etc. Effectivement, en vrai, tu n'as pas toute la bouffe de l'univers à portée de main. Donc, s'il n'y a pas de chocolat, comme le dit Vivien, en fait, ça réduit sûrement à des choses plus. Qui vont pas avoir une saveur qui rappelle le chocolat, qui vont pas, tu vois. En fait, ça va sans doute te permettre toi de revenir, parce que c'est interactif, c'est pas question-réponse, point.
Cela dit,
donc du coup, si je te propose ça, qu'est-ce que t'en penses ?
Cela dit, vous bottez en touche, parce que si vous dites que tout est question de contexte, alors c'est vrai qu'on définisse la réalité en creux par
que ce qu'on la décrive par ce que l'on peut faire ou ce qu'il est interdit de faire, dans les deux cas, on coupe l'herbe sous le pied de la discussion en disant bah, ça dépend du contexte, les gars.
Ouais, alors cette histoire de définition en creux, c'est une façon de penser et une façon de retourner les réflexions systémiques en fait. Quand on parle de système, souvent on parle de choses positives, quoi. On dit voilà, il y a ça, il existe des choses en fait, il existe des objets qui vont interagir. C'est juste en fait de retourner la réflexion. Ça permet d'avoir une vision négative en fait de tout ça, qui peut être vachement féconde en fait.
Alors moi j'aime beaucoup raisonner par l'absurde, et je peux te dire que ça fait des trucs bien pétés du. Ah, ok.
J'allais dire qu'est-ce que tu penses des. J'ai deux exemples. Le premier exemple, c'est les traditions dans Vampire. Je ne sais pas si tu connais un petit peu Vampire ou pas. C'est une série de lois qui te dit tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc ça te définit des contraintes. Est-ce que c'est un mode de réflexion qui représente bien ce dont tu étais en train de parler?
Ouais, carrément. Ouais. Alors justement, c'est sachant ça, l'idée en fait, c'est que un espace de contraintes donné va produire en fait en creux un système en fait. L'espace de contraintes produit en creux un système. Donc si jamais tes contraintes sont bien choisies, ce système défini en creux peut être super pertinent pour ce que tu veux faire. Donc si jamais, alors je connais pas Vampire ni rien, mais d'après ce que tu as dit, si jamais tu as des interdits et que ces interdits pointent vers des choses que globalement tu n'aurais pas forcément eu envie de faire, mais sachant que tu ne peux pas le faire, alors ça va tirer la partie vers un endroit donné. Alors oui, c'est totalement ce que je veux dire.
C'était aussi le deuxième exemple que j'allais prendre qui est un petit peu similaire mais encore plus explicite. C'est un jeu qui s'appelle Houses of the Blooded. Donc
on a joué ensemble.
On y a joué ensemble. Tu as une série de lois, et pour chaque loi qui est donnée, donc qui est une interdiction, tu as l'interprétation de la loi, et tu as la loi dit ça, l'interprétation est ça. Et du coup, ça t'ouvre les possibilités. Comme c'est un jeu qui est tourné autour justement de la trahison, autour des intrigues, etc., en définissant les lois, tu donnes les modes d'action du jeu aux joueurs. Donc je me demandais si c'était un bon exemple ou pas.
Cette distinction quand même que tu as deux sortes de lois. Tu as des lois comme la gravité que tu évoquais tout à l'heure, où tu peux te démerder pour essayer de t'en affranchir par des moyens de.
Il y a des interdits qui peuvent être négociables.
C'est pas la même chose qu'un interdit.
Et ça crée des tensions ludiques aussi.
Tu peux effectivement essayer de le contourner, ou tu peux essayer de le violer sans te faire piquer, ou en détournant la culpabilité vers quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas la même nature.
Mais là on joue en fait. Tu vois, le jeu est là en fait, quoi. Thomas dit, voilà, ça crée des. Ça, c'est déjà joué. C'est-à-dire que. Alors, bien sûr, dans l'espace, il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qui sont contraintes. C'est-à-dire, la gravité, c'est une contrainte.
Bah, je vais dire, personne ne m'a jamais pris en train de violer la gravité.
Voilà. C'est-à-dire, oui, mais tu peux tenter de composer avec, quoi. C'est bien l'espace des contraintes, pas l'espace des interdits, quoi.
Je respecte la gravité quand je prends l'avion. Bien, écoutez, je vous propose une chose, c'est qu'on se coupe notre enregistrement, on dise au revoir à nos auditeurs et qu'on continue un petit peu la discussion pour pas que ce soit trop long. Éventuellement, un dernier mot et on coupe ensuite. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot, une dernière chose à ajouter qui vous brûle les lèvres?
Je crois qu'on a trahi le podcast.
Truite, pédiluve, trahison du podcast.
Merci Bernard.
Merci Bernard, évidemment.
Cacamou, cacamou, cacamoulox.